Voilà, donc nous allons reprendre nos travaux avec la conférence de Mathieu Flonneau, qui est historien, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Sciences Po. Il est chercheur à l'UMR IRIS, Centre de recherche d'histoire de l'innovation, et il a notamment piloté avec le Comité des constructeurs français d'automobiles et le groupe de recherche P2M, passé, présent, mobilité. Il a piloté donc les ateliers sociétaux du Mondial de l'automobile 2012. Il co-dirige chez Descartes et SI la collection Culture Mobile. Pardon. Il a notamment publié donc en 2009 un ouvrage intitulé Automobile, les cartes du désamour, et en 2010 L'auto-refoulement et ses limites. Donc il va intervenir aujourd'hui pour une conférence intitulée donc, Automobilisme contemporain et enjeux des nouvelles mobilités. Merci.
Merci à vous, merci à toute votre équipe, une bonne fois, puis évidemment aussi pour la souplesse d'emploi du temps. Naturellement, c'était un plaisir de laisser parler Arnaud d'abord, puisque Arnaud de surcroît, et vous l'avez vu, plus spécialiste des transports en commun, et je plus spécialiste des mobilités individuelles et d'automobilisme. Donc ce que je vais vous soumettre comme présentation, c'est une analyse rapide de l'automobilisme contemporain et des nouvelles mobilités. Je vais quand même en dire un mot. Et vous verrez, c'est quand même en filigrane de tout mon propos. Néanmoins, je vais m'intéresser aux anciennes mobilités, à leur résistance, à leur capacité de résilience aussi dans la société contemporaine, mais aussi quand même à leur permanence. Et des données ont été évoquées tout à l'heure sur la longue durée finalement du phénomène automobile, qui a un siècle, mais qui est désormais bien ancré dans les mentalités, tout particulièrement en province. Et de ce point de vue-là, l'exception parisienne que je vais évoquer n'est qu'une exception. Donc le discours ne peut pas être parisianiste autour de l'automobile, même si je me débat parfois avec des problématiques médiatiques, notamment qui oblitèrent un débat public avec des thèmes très parisiens, il faut bien le dire, ou très grandes villes. J'attire votre attention sur une carte extraordinaire de Jacques Lévy dans son dernier ouvrage sur Réinventer la France. Il y a une dizaine de cartes. Il y a la carte des transports publics en France, et c'est très intéressant, je ne l'ai pas scannée malheureusement, mais je vous invite à aller la voir, c'est publié chez Fayard. Cette carte des transports publics en France témoigne eh bien, de la démotorisation des centres-villes, mais seulement des centres-villes. C'est pourquoi je me suis permis une remarque tout à l'heure sur le ticket gagnant du tramway contemporain qui en impôts publics représente beaucoup, parce qu'il s'agit d'équiper aussi la périphérie pour continuer à rouler en automobile. Donc ça, c'est un coût caché du tramway qu'il faut remettre en perspective. Alors, je m'exprime pour mon laboratoire de recherche, évidemment. J'ai un cours à Sciences Po sur les mobilités et les transports dans la longue durée, pour l'association Passé Présent Mobilité dont nous sommes des piliers avec Arnaud, pour la collection aussi Culture Mobile. Je n'ai pas vu ce logo, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais moi je le mentionne évidemment. Et d'ailleurs, je vais offrir à une bonne fois un ouvrage, Les cartes du désamour. J'en ai d'ailleurs par devers moi, et donc à l'occasion je peux évidemment en donner. Je vais faire aussi d'autres publicités pour d'autres ouvrages, rassurez-vous, j'ai toujours cette coutume. Mais cette collection Culture Mobile a pour ambition de démodaliser le débat sur les transports, car l'individu contemporain est définitivement un individu en archipel, un individu qui le matin est toujours piéton à un moment ou à un autre, mais peut être automobiliste, peut être usager des transports publics, quel qu'il soit, et donc c'est un usager qui est obligé de piloter les réseaux contemporains, qui est obligé de savoir composer et d'être le plus renseigné possible, le plus intelligent possible au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire de disposer le plus possible de données. Et l'un des enjeux des nouvelles mobilités, puisque c'est tout de même ma minute de fidélité au titre, l'un des enjeux des nouvelles mobilités, il y a des rapports pour cela, des rapports de littérature grise. Il y a un rapport du Centre d'analyse stratégique qui est paru en 2010 sur le thème. Ce rapport fait 150 pages, c'est Olivier-Paul Duboitaine qui en a été le coordinateur, c'est passionnant, c'est une perspective sur la prospective justement des transports mobiles individuels, et il pointe, et donc je vous en donne un résumé qui ne va pas épuiser la suite de mon propos, vous allez voir, parce que moi je regarde résolument dans le rétroviseur, mais le résumé des propositions, il y en a 19 qui peuvent être résumés à nouveau, substantifique substance en quelque sorte, au travers de l'usage des véhicules motorisés légers qui doivent être moins encombrants, moins consommateurs d'énergie, des deux roues motorisées, des voitures urbaines à deux ou quatre places, posséder ou partager cet élément est à prendre en compte, électrique ou thermique. Cette donnée a été évoquée dans le débat tout à l'heure. Ensuite, deuxième grande catégorie de recommandations, le développement d'une économie de service qui se substitue à l'usage exclusif d'un véhicule possédé, ce qui explique la présence de nombreux nouveaux entrants comme opérateurs de mobilité sur le marché de la mobilité individuelle. Nous verrons aussi quelle proportion attribuer à ces nouveaux entrants. Il faut évoquer, j'en ai dit un mot, l'adaptation du transport et de la mobilité à l'ère du numérique. C'est évident, mais c'est aussi un fil à la patte redoutable, vous le savez tous. Être injoignable quelques minutes après un email important, c'est jugé moralement scandaleux aujourd'hui. C'est tout de même une assignation considérable. Et vous allez voir que, à ma manière, en plaidant pour un automobilisme raisonné, je lutte contre cette assignation. Enfin, et cela satisfera au moins l'un des interlocuteurs présents, mais beaucoup d'autres, et j'en suis un, l'utilisateur du vélo, eh bien, la redécouverte du vélo, vélo simple, à assistance électrique, à trois roues, etc., qui naturellement doit être pris en considération dans sa zone de pertinence. Car je le regrette beaucoup, mais à une certaine distance de Poitiers, le vélo devient inefficient. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup à relativiser. Et Arnaud l'a très bien fait en disant, voilà, c'est quand même 1 à 2% de services rendus aux usagers dans une ville comme Paris, encore aujourd'hui. En revanche, dans le budget de la direction de la voirie et de la communication de la ville de Paris, c'est très important, le Vélib. Et pourtant, ce n'est pas gratuit, c'est un service dédié et adjugé à un concessionnaire privé, donc il y a d'autres enjeux sur l'adjudication de l'espace public. Enfin bon, c'est pas non plus quelque chose de gratuit. Donc voilà quelques exemples. En concluant, cinquième catégorie sur la recomposition de l'espace public. Ceci est décisif, évidemment. L'hégémonie automobile, on va voir ce que l'on peut en penser, l'hégémonie automobile a été pendant très longtemps stigmatisée. Alors je vais avancer dans le PowerPoint. Je vais tâcher de vous montrer, alors en vous recommandant, faisant de la publicité. Donc pour deux ouvrages, finalement, il y en a un que vous n'avez pas cité parce que je ne l'avais pas indiqué, mais qui est très important, c'est Les cultures du volant. 19e, 21e siècle. Et Les cultures du volant, c'est un essai sur les mondes de l'automobilisme paru chez Autrement, pour lequel j'ai essayé de ne pas m'intéresser à l'automobile. Justement, il n'y a pas d'automobile en couverture. En revanche, tous les usages de l'automobile sont mon sujet. Et pour aussi totalement achever de faire ce pas de côté par rapport à des rencontres traditionnelles, technologiques, scientifiques, ou par rapport à une histoire traditionnelle des sciences ou des techniques, eh bien je n'en fais pas. Moi, je fais une histoire culturelle, sociale, politique de l'automobile. Et de ce point de vue-là, je pense que l'automobile est un objet social, culturel et politique, avant d'être un objet technique et même économique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des éléments à prendre en considération, y compris dans la nouvelle donne contemporaine, qui m'agace beaucoup, vous allez le comprendre, sur le refoulement, le tabou routier. Et j'ai même écrit un ouvrage intitulé de cela, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'auto-refoulement, car certes, il y a une addiction à l'automobile qui peut être tout à fait critiquable, et je ne la méconnais pas, mais il y a aussi un refus de principe qui est soit hypocrite, soit schizophrène. Et ce sont ces points-là qu'il faut pointer aussi dans la société contemporaine. Alors pour avancer, pour donner quelques éléments plus substantiels, je dirais que les lourds enjeux, je ne les méconnais pas. Et lorsque l'on publie, et Arnaud y a écrit, « Automobile, les cartes du désamour », on le voit bien. Cette logique de désamour vis-à-vis de l'automobile, vis-à-vis de l'idole, vis-à-vis d'un objet qui a été fétichisé, eh bien, il est réel. Mais il n'est pas réel partout. Et Toyota a beau jeu de promouvoir sa Toyota Prius, qui dans les ventes de Toyota est dérisoire, qui est un véhicule hybride très vertueux. Le mot vertueux est intéressant parce que le débat est moral. Nous allons y revenir. C'est pourquoi l'objet n'est pas technique, l'objet est moral. Eh bien, cet objet est promu en respectant, en annonçant de respecter justement eh bien, la couche d'ozone, l'effet de serre, enfin ce réchauffement climatique que les panneaux dans l'entrée là décrivent. Effectivement, il y a une urgence. Mais Toyota ne vend que très peu de Toyota hybride. Beaucoup de collègues universitaires américains en ont. Oui, bien sûr. En revanche, il y a beaucoup de 4x4 Toyota et la vraie prospérité du premier constructeur mondial d'automobile qui était Toyota l'an dernier, elle se construit en Afrique, elle se construit dans les pays émergents où eh bien, l'on prend les marchés qui étaient autrefois les marchés réservés au diesel français. Donc dans cette logique-là, il y a effectivement peut-être une hypocrisie chez un grand constructeur à promouvoir ceci. Mais l'enjeu, il est réel et ceci, je ne le méconnais pas. La contrainte, elle est totale. Et c'est ce que j'appelle le nouveau paradigme des mobilités. Et donc je vais aller vite parce que je n'aime pas trop théoriser par oral. Et le cultural turn des mobilités, c'est évidemment le décloisonnement et la perte de légitimité des experts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat, il est public. sur les mobilités, et on peut s'en réjouir à certains égards. Et ce débat public, eh bien, il impose une construction sociale de la technique, il impose ce que Ulrich Beck appelle la reflexive modernity, des éléments qui mixent en quelque sorte le local et le global, il appelle ça le glocal, et l'on est là dans des tensions, car évidemment ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire l'usage du Vélib, il est peut-être vertueux à Paris, mais la chaîne économique du Vélib produit en Roumanie, ce qui est peu su, est aussi discutable. Et la chaîne du véhicule électrique, la chaîne écologique totale, du puits à la roue, alors il n'y a plus de puits, mais de la prise à la roue, elle est aussi discutable sur la production d'électricité. Donc il y a des éléments là qui entrent de plein pied, qui font entrer de plein pied le débat sur les mobilités dans le débat politique. Et il n'y a plus rien de naturel finalement à présenter des progrès. Autrement dit, il y a une recomposition de l'écosystème général des mobilités. Et de ce point de vue-là, le débat sur la sécurité routière est emblématique. Il a été analysé par des sociologues américains, Gus Field notamment. Et ce débat sur la sécurité routière, il témoigne bien que l'on passe d'une solution qui était relativement consensuelle, l'automobile solution, à un problème multiscalaire, à un problème qui implique tous les échelons de la société. Et on le voit bien à la composition du Conseil national de la sécurité routière, le nouveau conseil qui a été ressuscité, des équilibres sont à respecter. Et le problème de la mobilité générale ne se pose pas non plus dans les mêmes termes lorsque vous êtes dans des civilisations qui continuent de construire des infrastructures massives. Et là, nous sommes à Shanghai. Nous sommes en Chine, et puis là, ça se lit, nous sommes à New Delhi. L'automobile conserve une forme de pertinence et l'on est toujours ému lorsqu'en famille, on reçoit les clés de la première voiture. Il y a des vidéos qui tournent sur YouTube, vous les verrez, de personnes qui pleurent recevant leur Dacia ou leur Tata. Évidemment, on est là dans une actualité qui est plus tendue en Europe. C'est-à-dire que ces marchés qui contribuent à la prospérité encore des constructeurs automobiles, et je n'ai pas trop de soucis pour eux en dehors de l'Europe, fait que partout en France, l'actualité est très tendue. Et vous le savez bien, cela bruisse de fermeture d'usines, cela bruisse de contraction de personnel, cela bruisse éventuellement de faillite du deuxième grand constructeur français qui est PSA. Bref, lorsque nous avions organisé, et Arnaud était aussi présent au Mondial de l'automobile, des ateliers de réflexion, c'est quand même un signe optimiste, l'industrie automobile désormais réfléchit à ce qui peut frotter dans le système, ces ateliers de réflexion ont témoigné de tous les dysfonctionnements possibles et de toutes les tensions de l'automobile en France. Alors il y a pourtant des rêves qui sont anciens. Et ce rêve Champion Junior, c'est un film dans lequel Louis de Funès apparaît, c'est un rêve qui témoigne de ce plaisir de l'automobile qui est très associé éventuellement à la jeunesse. Alors je le sais bien, le rapport du Conseil d'analyse stratégique évoque un désamour des jeunesses, de la jeunesse à l'égard de l'automobile. Je dirais qu'il faut rendre pluriel la jeunesse. C'est-à-dire que peut-être les jeunesses banlieusardes n'ont pas le même rapport à l'automobile que les jeunesses rurales. En tout cas, il y a là des éléments de débat à pondérer. Et donc, il y a des civilisations où l'automobile reste encore un puissant objet de rêve. Et c'est naturellement pour le plaisir que je diffuse une image de Cars qui, à mon sens, ressuscite toute une mythologie non moins respectable que toute la mythologie Disney. Vous avez des mythes. Là, c'est la grande saison du sport automobile en ce moment. On sort du Mans, il n'y avait pas Explique, etc. Il y a des grands prix spectaculaires, il y a du Strass. Bon, évidemment, Steve McQueen n'est pas loin derrière. Drive n'est pas loin derrière. Mais il y a des sentiments qui sont évidemment très présents lorsque l'on évoque cet objet qui n'est pas qu'un objet, je vais y revenir. Alors, les mythes, ils peuvent même perdurer à l'âge de l'automobilisme électrique, qui est pourtant une frustration absolue. C'est-à-dire que c'est une automobile en moins bien, l'automobile électrique. Pour preuve, on cherche à y remettre du son. Cette automobile, on y produit des éléments pour les enfants fondés sur la Zoé. Et paradoxalement, autant on commence à parler de l'échec de la Zoé, autant on s'enthousiasme pour la renaissance d'Alpine, la marque fleuron de sport de Renault qui va réapparaître avec Caterham. Bref, vous l'aurez compris, on ne parle pas d'un objet rationnel. On parle de ce que Roland Barthes a bien qualifié de cathédrale moderne. Un objet investi d'autre chose, de qualité. Et cette donnée-là, elle est tout à fait essentielle parce que c'est un objet magique, finalement, que cette automobile, bien décrite dans les mythologies. C'est une déesse qui est décrite par Barthes, déesse présentée au salon de 55, mais il y a évidemment du mythe par derrière. Et puis, naturellement, le statut de l'automobile évolue, change. Sous nos latitudes, c'est un patrimoine. C'est-à-dire que L'historien attentif aux traces, attentif aux musées, est un peu désespéré en région parisienne parce que c'est pourtant là que l'automobile et l'automobilisme ont pris corps, c'est-à-dire toutes les pratiques. Il n'y a pas un musée digne de ce nom. Je pense que plus l'objet va s'éloigner, va se détacher, plus le musée aura de chance. Mais ça, c'est pour l'Europe, c'est pour la France. Il y a d'autres pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont des musées prodigieux, 700 000 visiteurs au musée d'Hemmler à Stuttgart, ce qui est considérable. En revanche, le caractère d'objet mort, la beauté du mort, comme dit Michel de Certeau, le caractère d'objet froid, ben, il est tout à fait contestable dans ces voitures cathédrales. Et l'allitération, elle est très spectaculaire parce que l'artiste qui a photographié ces voitures qui sont en partance sur les docks à Marseille pour le nord de la Méditerranée, pour le Maghreb, eh bien, elles sont investies d'une vie, tout simplement. Et donc le rapport à la Renault 21, qui est ce qu'elle est, eh bien, n'est pas le même rapport qu'à la voiture totalement utilitaire. Là, c'est votre vie que vous déplacez avec vous. Et donc, il y a un enjeu pas moindre que celui que j'ai signalé en Inde tout à l'heure. Bref, au-delà de l'automobile, y aurait-il simplement un goût archaïque pour la liberté? Naturellement, je vais être totalement provocant, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin, le plaisir d'avoir un rapport d'évasion avec l'automobile, le plaisir de pouvoir aller à la mer, Marcel Proust l'écrit. Eh bien, le plaisir de pouvoir construire son itinéraire jusqu'aux plaisirs interdits sur la route de Jack Kerouac, évidemment, vous êtes là dans une logique qui construit un rapport particulier à la liberté humaine et à l'humanisme. Et c'est ceci que je voudrais promouvoir véritablement comme valeur. Alors, c'est un art, c'est une technique, mais c'est un art qui peut être sublimé également. Dans quelques espaces, le sublime. Alors, j'ai évoqué, il n'y a pas de musée à Paris, mais il y a un musée spectaculaire en France, mais il fait 180 000 visiteurs. C'est à Mulhouse. C'est la cité de l'automobile, mais c'est dérisoire par rapport au nombre de visiteurs des musées allemands. Vous aviez enfin eh bien, cette voiture, une Cisitalia, qui est rentrée au Metropolitan Museum de New York, au MoMA, en 1947, au MoMA, donc au Modern Art Museum. Vous êtes là dans une logique où l'automobile eh bien, est exposée dans son excellence, dans son élitisme. Et il y a eu une exposition qui a surpris tout le monde à Paris, c'est l'exposition de la collection Ralph Lauren, un Américain intéressant, essentiellement une collection de voitures européennes et de voitures françaises, eh bien, cette logique-là, cette collection, elle a fait au Musée des Arts et Décoratifs le record des expositions temporaires parisiennes pour un musée de la taille du Musée des Arts Déco. Mais c'était au Louvre, et donc symboliquement, c'était tout à fait important. Alors, les musées allemands, les voici. Le musée d'Hemmler, à Stuttgart, le musée Porsche, le Saint-Sacrement, véritablement, de la première motorisation. Je passe sur le débat chauvin qui peut attribuer à l'Allemagne la paternité de l'invention, qui est très discutable. En tout cas, c'est Allemands et Français qui se partagent ceci. Et juste à côté du musée d'Hemmler, vous avez le musée Porsche, avec cette provocation absolue. Il y aurait une philosophie de la Porsche 911. Oui, oui, je le pense, très sincèrement, qualitativement, pouvoir mettre le nez à la fenêtre. Je ne parle même pas de mes enfants derrière, mais c'est un plaisir. C'est une dimension du rapport à la vitesse individuée, c'est une dimension du rapport à l'espace qui est une nouveauté absolue avec l'automobile. Alors évidemment, lorsque Reiser caricature les automobiles du dimanche soir, les embouteillages, bah c'est une pauvreté absolue. Je suis le premier à le déplorer. Je suis là dans une logique utilitariste, grégaire, moutonnière, évidemment scandaleuse. Toujours est-il que l'automobile n'est pas que cela, il y a une véritable poésie qui a été associée. Alors évidemment, on oublie aussi les fulgurances fondatrices dans un discours public largement quand même culpabilisant. Et j'ai présenté là, je vais essayer de ne pas être trop parisien, mais enfin, il y a quand même trois cartes de stationnement parisiennes là, qui sont trois cartes parfaitement légales. C'est-à-dire que lorsque je prends ma voiture et que je veux vraiment me garer, je suis soupçonné de me garer sur un passage clouté, je suis soupçonné de me garer dans un cabriolet, je viens de vous dire ce qu'il faut en penser, sur une place handicapée, ou je suis soupçonné d'embouteiller une voie de véhicules de service d'urgence. Bref, le comportement scandaleux par excellence. Et il est vrai que l'automobilisme exige un surcroît de responsabilité. Mais là, c'est un discours pédagogique qu'il faut nourrir. C'est un discours de responsabilisation très difficilement audible dans la société contemporaine. C'est un enseignant qui vous le dit. Par ailleurs, le quotidien, évidemment, il est fait de conflits, il est fait de désenchantement, et à Paris tout particulièrement, mais là où on a neutralisé l'automobile, mais encore pas tout à fait, c'est-à-dire les voies sur berge, eh bien, somme toute, ça ne dérange que l'hypercentre parisien, déjà gentrifié, merci aussi le tramway de ce point de vue-là, un hypercentre qui, somme toute, et ça ne bruisse que de paroles anglo-saxonnes lorsque je prends mon Vélib et que je parcours cette nouvelle partie neutralisée destinée aux touristes. Et donc la Paris fait un choix pour son hypercentre. C'est d'ailleurs bien pourquoi l'on pense à un Grand Paris. Parce que eh bien, l'hypercentre muséifié, ça y est, c'est fait. C'est fait. Et donc de ce point de vue-là, il y a des éléments qui, en refoulant l'automobile, ont refoulé un élément de l'activité économique. Le deuxième aspect, qui est indéfendable, je ne plaiderai jamais contre les radars, qui sont la meilleure invention qui soit. C'est-à-dire que cette responsabilisation de la société française, qui a tardé par rapport à d'autres sociétés industrielles, parce qu'il y a la dimension vantarde et puis revêche à l'autorité du français, la rébellion, et bien cette rébellion, elle est scandaleuse lorsqu'il y a 16 000 morts sur la route, comme en 1972, lorsque la prévention routière s'en tient à des messages de prudence, de discipline et de courtoisie. Oui, bien sûr, soyez prudents. Mais on le sait bien, sans l'enforcement, sans la sanction, il n'y a pas de respect de ces lois. Donc, vive les radars, de ce point de vue-là. La vue que vous avez là, c'est une vue très symbolique, c'est-à-dire qu'en 1973, la ville de Mazamé avait organisé une opération ville morte. Tout le monde était sorti, Mazamé, 16 000 habitants, 16 000 morts, 16 000 corps sur la chaussée qui témoignaient de l'hécatombe. Car finalement, celle-ci était euphémisée dans la société française et on ne s'en rendait pas compte, c'est plus que la guerre d'Algérie. Donc dans ce contexte, naturellement, il y a une prise de conscience et une prise de responsabilité vis-à-vis de cela. Mais l'automobile n'est pas que cela. Et donc j'ai cité Marcel Proust, le voici avec cette expression qui résume parfaitement un usage raisonné et éclairé, et peut-être un peu élitiste, je le conçois, de l'automobile, mais c'est la belle mesure de la terre, la manière d'approcher les cathédrales de Normandie, et qui le rendait tout à fait exalté à sa manière. Et Marcel Proust aimait beaucoup le train, mais il reconnaissait la supériorité de l'automobile, parce que c'est une volonté liée au libre arbitre de chacun, de gagner sa vitesse, de la respecter, de prendre à droite, de prendre à gauche, bref, c'est une liberté. Mais cette liberté n'aurait jamais fonctionné si elle n'avait pas une légitimité sociale. Et là, les anciennes mobilités ont quand même une légitimité fondamentale, c'est celle de l'industrie. C'est celle du pacte saint-simonien qui, pendant deux siècles, a assuré la croissance à la société française et en a fait, accessoirement, au début des années 1970, la quatrième puissance mondiale. Et donc, de ce point de vue-là, la légitimité du travail, jusque dans le Paris intramuros, et à partir du moment où toutes ces usines à Paris intramuros ont fermé, c'est très facile de refouler l'automobile et l'école bleue. Il n'y en a plus. Donc, de ce point de vue-là, la disjonction entre une réalité économique, alors qu'il y a encore deux constructeurs français d'envergure mondiale, même s'ils sont multinationalisés, mais c'est la règle, eh bien, il y a encore des constructeurs d'automobiles en France, il faut le savoir. Ce que l'on a tendance, naturellement, à oublier lorsqu'on est à Paris. Alors l'exaltation par l'art, je vais passer très vite, parce que ce n'est pas l'objet, mais à Détroit, au Detroit Fine Institute, vous avez Fine Arts Institute, vous avez cette fresque de Diego Rivera qui exalte Motor City, donc les usines Ford qui ont transformé le rapport à la mobilité générale. Et le modèle américain, il est très présent, on l'a déjà vu avec Steve McQueen, avec Drive, mais évidemment, il y a une dimension d'identification et d'individualisation qui est liée à la liberté personnelle, la légitimité du travail, le caractère aussi séduisant, cette allégorie de l'industrie, cette mythification, elle se retrouve dans les affiches de l'Automobile Club de France, qui est le premier au monde, 1895. Elle se retrouve aussi dans ce que j'appelle l'âge d'or d'une poétique et d'une esthétique nouvelle. Oui, les futuristes, certes, ils sont violents, mais ils transforment le rapport en le mécanisant au paysage et à cette exaltation du moi de l'automobile. On exalte aussi, eh bien, au travers de pierres, donc là, ce sont des monuments parisiens qui témoignent des pionniers. Alors c'est où? C'est dans le square Alexandre et René Parodi, c'est au bout de l'avenue de la Grande Armée, porte Maillot. Ça a été déplacé d'ailleurs de façon un peu désinvolte, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus, mais il fait écho au vrai Arc de Triomphe naturellement, et il témoigne de la victoire de Émile Levasseur, attention, hein, Couévérac, c'est pas très loin, de Émile Levasseur, enfin, je veux dire, ce genre de course automobile pionnière, 1903, le Paris-Madrid, évidemment, qui passait pas très loin d'ici, mais vous êtes dans une logique où ce sont des héros. L'héroïsme moderne a un nom, c'est l'automobiliste. Ou, et en général, les constructeurs font des deux, les aéroplanistes. Et donc les frères Farman, etc., ont un rapport particulier à l'automobile. Il y a une exaltation jusqu'à la bénédiction religieuse. Et lorsque, à côté de la rue de la Convention, à Paris, vous avez une église qui s'appelle Saint-Christophe de Javel, dont les fresques témoignent de la présence de Jésus-Christ, Saint-Christophe, qui bénit les automobilistes, comme vous le voyez. Ben, c'est une bénédiction donnée dans le processus de déchristianisation et on essaye de s'accrocher aux ouvriers, à la classe ouvrière, bah, on va leur montrer qu'on s'intéresse à leur production. Et donc sur une face de l'église, vous avez un automobiliste, vous avez aussi un aéroplaniste. On n'est pas très loin du premier aérodrome du monde, c'est-à-dire celui d'ici, les Moulineaux. Vous avez une exaltation toujours artistique, donc là c'est des images pour que quand même il y ait une persistance rétinienne. Vous allez peut-être me dire, oui, enfin attendez, l'automobile c'est quand même les embouteillages au feu rouge de Poitiers et sur le périphérique. Oui, bien sûr. Enfin, ça n'est pas que cela. Ça n'est pas que cela. Et donc, les artistes l'ont bien compris. Il y a une dimension érotique qui est fondamentale, évidemment. Alors, évidemment, là aussi, ça, c'est daté. Oui, d'accord. Mais le rapport de genre dans la construction du rapport à l'automobile, les gender studies en font leur délice parce que c'est une manière d'archaïser le produit automobile. Même si on oublie assez facilement que les femmes sont aussi parfois auto-addictes. Et donc, dans cette logique-là, il y a un rééquilibrage de la société contemporaine qui est bienvenu à cet égard. Et donc, naturellement, tout autour de la psychanalyse, vous le voyez bien, je vois bien ce qu'est un levier de vitesse. Enfin, là encore, on peut grandir. C'est-à-dire que la voiture automatique, elle a un sens. Et le rapport au levier de vitesse, il est moindre. Donc, de ce point de vue-là, la logique de reconfiguration de l'espace, la logique architecturale, la logique civilisationnelle, j'ose le mot, il y a une civilisation de l'automobilisme. Cette logique, elle est parfaitement illustrée dans les constructions américaines des bords de route, les roadsides, en tout l'art déco. Puis aussi, alors là, c'est très trompeur, parce que c'est un parking en élévation, a priori un parking lambda, mais nous sommes dans les Marina Towers à Chicago. Et donc, en dessous, vous avez Walker Drive et vous avez Chicago River, avec, c'est pour des personnes fortunées, je vous l'accorde, mais avec des garages à bateaux. Et puis, au-dessus, vous avez une trentaine d'étages de standing, d'appartements. Donc la voiture est vraiment intégrée, digérée, c'est cela le sens de ce que je veux dire. Alors les pierres d'attente de la société française, ce rapport de naturalisation à l'objet automobile, il a été plus tardif qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas construit tout simplement, tout de suite, des autoroutes qui sont inventées en Italie et en Allemagne. Et les corps des ponts et chaussées en France, le corps a résisté parce qu'il y avait cette permanence de l'idée, de l'idéologie aussi, du plus beau réseau routier du monde. Et donc, pourquoi construire des autoroutes ? Pourquoi éventuellement réaménager les villes alors que, eh bien, somme toute, le fonctionnement en paraissait assuré ? Mais pourtant, de grands plans sont apparus. Et donc, pour Paris, à nouveau, mais le plan voisin de Le Corbusier, voisin constructeur d'avions et d'automobiles, le plan d'Edouard Utudjian, un plan d'urbanisme souterrain, et puis enfin, les premiers projets pour l'autoroute de l'Ouest sont là, naturellement, pour témoigner de cette conversion, de cette naturalisation, de cette familiarisation de l'objet automobile dans la société française. Mais celle-ci est tardive, et celle-ci, eh bien, laisse de côté, parce qu'on est dans la massification, mais elle laisse de côté le romantisme suranné, elle laisse de côté, eh bien, tout... Romantisme, pardon. Elle laisse de côté, naturellement, toute cette exaltation héroïque que j'ai voulu évoquer. Et bon, François Sagan est une rebelle à sa manière, elle n'a jamais conduit pieds nus, mais enfin, c'était une idée fausse qui est un fait vrai, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça a du sens de l'imaginer ainsi, c'était une femme de surcroît qui a conduit des voitures beaucoup plus masculines que les Jaguars. Elle conduisait une Renault Gordini, enfin une Gordini, pardon, pas Renault, une Gordini qui était autrement plus virile au sens automobilistique du terme à l'époque. Bon, l'hubris des carrosseries américaines, la Cadillac 59 en est l'expression, mais comment l'automobile peut-elle se familiariser ? Eh bien en devenant le plaisir du dimanche de tout un chacun. Et la classe ouvrière, au cours des Trente Glorieuses, est celle qui se motorise le plus. Et donc, lorsque Robert Doisneau prend plusieurs photos de Français qui, en famille, ce point est important, la grande critique écologique du début des années 1970, qui a toute sa légitimité, que j'ai bien analysée, bien étudiée, cette grande critique écologique du début des années 1970, autour d'Ivan Illich, autour de André Gors, cette grande critique critique la non-convivialité de l'automobile, le mot est employé. Or, précisément, je pense qu'il y a toute une dimension de convivialité de ces embouteillages, organisés pour le plaisir sur la Nationale 7 avec des voitures populaires d'aujourd'hui, le plaisir du pique-nique avec des clubs. Enfin, il n'est pas nécessaire d'appartenir à un club et d'exalter forcément la voiture ancienne pour ressentir eh bien, ce bonheur que peut procurer à la campagne l'automobile. Alors, le tournant, il est là. Le tournant, ce début des années 70, le statut va évoluer, on va changer de regard, on va le percevoir, ce monde automobile, comme un monde oppressant, comme un monde destructeur, comme un monde d'enlisement, et donc une antithèse, une oxymore de la liberté que j'ai fait entrevoir tout à l'heure. C'est le trop, partout, d'automobile. Donc là, Aero, Carscape, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le paysage est obscurci. Les Cadillac plantés sur la route 66 Amarillo, Texas. Amarillo, Texas, donc le long de la route 66, on en a planté quelques-unes pour bien faire comprendre que cette société, c'est 1973, cette société est en train de basculer. Elle bascule dans quoi ? Elle bascule dans la crise économique, 73, elle bascule dans une crise sociétale profonde qui voit l'émergence d'associations qui vont voir d'un très mauvais œil, à partir de là, les élans modernisateurs gaulo-pompidoliens des années 60-70. Et là, vous me permettez trois slides exclusivement parisiennes, mais lorsque le général de Gaulle visite le chantier du boulevard périphérique en mai 1966, porte de la Chapelle, il visite un grand équipement français comparable au Concorde, comparable au plan calcul, comparable au programme nucléaire, comparable aux France, comparable aux aéroports d'Orly, de Roissy qui se construisent à cette période-là. Bref, les éléments fondamentaux de la modernisation française. Et donc, dans cette logique-là, l'automobile a un rôle à jouer. Elle recompose indiscutablement l'espace urbain, mais avec l'assentiment de populations pour lesquelles l'automobile est un facteur de démocratisation de l'accès à la ville et à l'activité. Mobilité et économie sont profondément liés. Et donc, naturellement, on pourrait en débattre. Et les berges de la Seine ont été reconfigurées, mais c'est la grande richesse d'une infrastructure automobile. C'est sa mixité possible. C'est-à-dire qu'on peut y revenir. Et finalement, ça n'a pas coûté si cher de transformer un tronçon assez neutre de la voie express rive gauche en promenade. C'est-à-dire que auparavant, la Seine n'était même pas vue. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, 1991. C'est-à-dire que le discours reconstruit sur le tourisme des bords de Seine au XVIIIe siècle, lorsque l'on s'y baignait dans une eau de cloaque, bon, franchement, il faut arrêter. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est une redécouverte contemporaine qui a son sens, mais dans une configuration nouvelle. Mais ce qui ne veut pas dire que la civilisation des années 60-70 était incohérente de ce point de vue-là. Alors la contre-révolution automobile est-elle la seule perspective ? Je viens déjà de déflorer un peu le sujet, mais naturellement, Paris-Plage est intéressant. Mais je note qu'on parle beaucoup anglais à Paris-Plage et c'est très touristique. Et ce n'est pas cela qui fait l'activité d'une ville essentiellement à prétention ville-monde. Donc il y a là des données à reconsidérer. Alors les possibilités d'ajustement, elles sont intéressantes. Et c'est pour cela que la critique écologique finalement a été fondamentale et bienvenue. C'est-à-dire qu'elle a forcé à repenser les infrastructures. Et une infrastructure comme le périphérique qui fête cette année ses 40 ans, effectivement, pourquoi ne pas la couvrir ? Ça coûte beaucoup moins cher que les 30 milliards du Grand Paris Express. Ça coûte beaucoup moins cher de civiliser une infrastructure que, eh bien, déjà de tenir compte, de ne pas en tenir compte comme patrimoine, or c'est un patrimoine, et de ne pas en tenir compte comme étant dans le paysage un élément qui est un élément de circulation, beaucoup plus que de frontière. S'il y a une frontière à Paris, elle est administrative, c'est pas le périph. Le périph n'a jamais autant ouvert la ville que depuis son existence. Donc il y a là des éléments à prendre absolument en considération. Il n'y a jamais eu autant de portes à Paris que depuis qu'il y a le périphérique. Périphérique d'ailleurs, date charnière fondamentale. Il est annoncé en 1943, date à laquelle l'octroi parisien est supprimé. Et donc c'est bien les nécessités de mobilité qui ont supprimé une barrière qui était autrement puissante que la barrière que peut représenter cette liaison qu'est le périphérique. Mais encore faut-il se donner les moyens de la civiliser. Enfin, alors évidemment, je termine par l'apothéose, et donc je vais achever de dérouter tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont associées à l'automobiliste qui ne sont pas méprisables. Il y a des valeurs, l'exaltation, l'ambition personnelle. Oui, il y a des mots là, voiture de race, symbole de succès, affirmation de la personnalité, domination du monde, accomplissement de soi-même, instrument d'aventure, emblème, le bonheur codifié de notre temps. Bah oui, il y a un pas de côté à faire. On est moins mouton parfois, je vous l'accorde, pas à certaines heures, mais on est moins mouton à prendre l'itinéraire bis, surtout celui qui n'est pas sur le GPS. Car l'automobilisme, c'est un outil de contrôle aussi des sociétés. Et c'est ça qui est troublant dans l'automobilisme, justement. C'est qu'il y a une part de liberté, et c'est un véritable dieu Janus avec deux faces. Et donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup à prendre, à mon avis, au regard, beaucoup à prendre et à apprendre au regard du poids des anciennes mobilités. Et pourquoi, surtout, nos sociétés seraient devenues dépendantes ? Bah, c'est qu'elles l'ont voulu à un certain degré. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, et je la pose de façon provocante, c'est jusqu'à quel degré d'abdication de cette liberté individuelle irons-nous ? Avec aussi en toile de fond ce point qui apparaissait, je pense, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui dans la société contemporaine en sacrifiant l'industrie automobile chez nous qu'on rendra la planète plus verte à l'échelle internationale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Renault qui seront vendus, mais ce seront des Hyundai. Et il y a là un point aussi macroéconomique à prendre en considération. Je termine avec deux images du rêve américain, je vous le concède. Un motel et puis New Orleans, et qui font écho naturellement à cet ouvrage que je vous conseille. Merci.
Merci de cette intervention surprenante, déroutante, c'est le cas de le dire. Donc moi, j'ai été surprise parce que ce que vous avez dit sur le périphérique, parce que j'y pensais en écoutant votre collègue, parce qu'on dit que le périphérique a permis justement de gérer des flux, mais aussi que ça a provoqué une ghettoisation. Alors, vous, vous dites le contraire, vous dites que le périphérique ouvre. Alors, expliquez-moi cette contradiction.
Il y a un acharnement à ne pas voir ce à quoi sert le boulevard périphérique. C'est moche, mais ça peut être beau. C'est-à-dire que si vous vous rendez Porte de Vanves aujourd'hui, un vrai investissement a été fait par la mairie de Paris. Porte de Vanves, on a installé un jardin. Et ce jardin, il est du niveau, je le dis comme je le pense, il est du niveau des reconversions de lignes de transport public, pour le coup, de la High Line à New York. C'est-à-dire, c'est un nouveau parc. Et donc, pourquoi ne pas nourrir, à moindre coût encore par rapport à d'autres grands chantiers en région parisienne, pourquoi ne pas nourrir ce rêve d'avoir une High Line générale, une couverture généralisée ? Et franchement, le périphérique à l'ouest n'est pas bouleversant dans le bois de Boulogne, où il a été particulièrement soigné. Alors, là où, évidemment, le propos est déroutant, et d'ailleurs, je l'ai écrit dans Libération, hein, il y a eu une tribune là-dessus, parce que personne ne voulait voir le boulevard périphérique. Déjà, c'est la France périphérique. Alors c'est ça qui est aussi déroutant, parce que c'est une France déclassée, reléguée, qui roule au diesel. C'est une France qui en a besoin. C'est une France que l'on ne peut pas neutraliser comme on peut neutraliser 2 km de voie sur berge centrale de Paris. C'est une France qui, de surcroît, n'a de périphérique que le nom. C'est-à-dire que le boulevard périphérique, ça fait bien longtemps que c'est le boulevard de l'Île-de-France, le boulevard central de l'Île-de-France. Or, la dimension frontière, alors évidemment, c'est très visible, mais c'est contre-intuitif comme infrastructure, parce que la vraie frontière, c'est la frontière administrative. C'est le fait qu'Haussmann, en 1860, a limité, et c'était adapté à l'extension parisienne de son temps, Paris aux fortifications. On ne peut pas accuser le boulevard périphérique d'avoir cette image fermée de Paris, puisque ce n'est pas lui qui en est la cause. Deuxièmement, la vraie cause de l'enfermement parisien, là encore, ce n'est pas le périphérique, c'est le métro. Le métro tel qu'il est conçu, il est conçu de façon municipale. Et au départ, il s'arrête aux portes de Paris. Et donc, on crée de fait deux marchés immobiliers. Un marché immobilier au centre, un marché immobilier à la périphérie. De ce point de vue-là, c'est 70 ans avant le périphérique qui est bouclé en 1973. Autrement dit, alors pour être positif, parce que là, il y a vraiment des mythes, des mythologies à déconstruire. Pour être vraiment positif, bah, je dirais que cette civilisation, elle est possible. Et il faut réfléchir à la gouvernance parisienne. Il faut réfléchir à une vraie autorité du Grand Paris, il faut réfléchir avec ambition à un domaine dans lequel les féodalités, même les plus récentes, sont très nombreuses.
Ouais, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque peut-être un peu acide, hein, je suis désolé. Mais en fait, quand je regardais dans la salle, je voyais que tout le monde se disait « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? C'est quoi ce truc ?» En fait, je sais pas, moi, c'est ce que ça m'a fait comme impression. Après. Et en fait, ce que je me disais, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de nous vendre la voiture, quoi. Enfin, nous dire. Enfin, je vois pas si vous étiez lobbyiste pour un constructeur automobile français, je vois pas ce que vous nous diriez de différent, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, enfin, pour moi, le problème de l'automobile aujourd'hui, enfin, le problème du transport aujourd'hui, c'est quand même bon. Voilà, on consomme 90 millions de barils de pétrole par jour. On sait que ça va pas continuer indéfiniment, qu'on est à l'aube du pic pétrolier qui devrait arriver dans les 10 prochaines années. Ça pose des problèmes en termes de, j'en sais rien, qualité de l'air, enfin ce que vous voulez, ça pose plein de problèmes de ressources, voilà, enfin bon. Et puis là, on arrive à un truc, la voiture c'est bien, il y a des filles toutes nues dans les voitures, je sais pas, on va à la plage en voiture, enfin, voilà, c'est. Alors désolé, c'est un peu acide, ça tombe sur vous. Parce que,
non,
voilà,
non, c'est pas acide du tout, et puis ça tombe sur moi, je le mérite. Je veux dire que j'assume totalement, effectivement, un discours qui n'est pas un discours de critique paresseuse et dogmatique et véritablement de doxa que l'on retrouve partout de critiques de l'automobile. Oui, ça, là, on peut le noter, noir dans... D'ailleurs, je l'ai écrit. Pire que ça, je l'ai écrit, vous vous rendez compte ? Donc, et je l'assume scientifiquement. C'est-à-dire que ce discours, il convient de le relativiser et dans le temps et dans l'espace. Et je ne crois rien avoir dit contre la morale générale. Je suis pour le décuplement des amendes de stationnement à Paris. C'est scandaleux, un automobiliste qui ne paie pas son stationnement. Je suis pour les radars. Je suis pour des éléments qui vont pacifier le rapport à la société automobile. Je ne suis pas pour la culpabilisation, souvent totalitaire, de l'automobiliste. Et là, effectivement, peut-être que les constructeurs automobiles tendent l'oreille à ce que je peux dire, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des universitaires financés par des contrats de recherche qui représentent des intérêts aussi tout à fait intéressants, qui défendent le transport public comme étant plus républicain, alors que l'automobile, ce serait l'individualisme. Oui, bien sûr. Je prends ce risque. Mais je prends ce risque, attention, en l'étayant quand même, donnez-moi ce crédit, faites-moi ce crédit, en l'étayant sur quelques arguments. Les filles à poil dans les voitures, franchement, j'en ai d'autres. Je n'ai pas choisi les pires. Je ne les méconnais pas, je ne les méconnais pas. Hein. Je suis aussi relativement, peut-être un intellectuel, qui a ce regard un peu affligé sur la culture jacquie, tout ça. Oui, d'accord. La voiture comme ça, ce n'est pas non plus ma tasse de thé, vous l'avez peut-être compris. Toujours est-il que c'est aussi comme cela que vivent les gens. Et à culpabiliser et à stigmatiser, alors je l'ai dit un peu vite, parce que je voudrais y donner un peu plus de poids, mais à culpabiliser cette France périphérique, on s'expose à des retours de bâton, parfois électoraux, qui sont dangereux.
On ne peut pas empêcher les Chinois d'avoir accès aux automobiles et les pays en voie de développement. Enfin, on pose aussi ce problème.
Au nom de quelle morale ? Au nom de quelle morale ? Ceci... Oui, oui. Ben, je vous... Oui, oui. Enfin, le pic oil, là, très intéressant que vous l'ayez mentionné, le pic pétrolier, le fameux pic oil. On en parle au début des années 70, on dit c'est 10 ans. On en parle au début des années 70, on dit c'est 10 ans. Les voitures, depuis les années 70, ont considérablement diminué leur consommation. L'hybride a été inventé. La voiture électrique, il faut en penser ce qu'on en pense. Enfin, c'est très complexe, mais ça a une vertu, c'est de redorer. Et là, je suis très critique hein, sur ce type de marketing. Et c'est en cela que je ne reçois pas totalement votre critique. C'est-à-dire que j'arrive quand même à distinguer cet élément... tapageur de marketing qui est éhonté parfois, oui, je suis le premier à le dire, mais c'est une question de valeur, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous êtes peut-être plus jeune que moi, vous êtes peut-être moins sensible que moi à cela, mais vous voyez, une société du gaspillage, ah non, il est en train de charger, voyez-vous ? Une société du gaspillage, une société aliénante, elle existe encore ? C'est celle qui vous oblige à changer de téléphone portable tous les 6 mois. Mais c'est un pur scandale. Mais si vous permettez, franchement, je l'ai dit vite, je l'ai dit avec des points d'exclamation. J'ai pu l'écrire avec un peu plus de nuance, là, là, et j'ai trop écrit déjà.
Alors moi j'aurais une question qui est beaucoup moins politique. Voilà, vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez cité Sagan, vous avez cité Kerouac, et c'est vrai qu'on associe souvent la voiture à une certaine forme de liberté et à quelque chose de dangereux. Et cette liberté est associée à quelque chose de dangereux qui est à la fois souvent viril, mais aussi autodestructeur. Et on y voit voilà, quelque chose de... Ouais, une liberté qui est presque poétique, qu'on ne retrouve pas dans le vélo ou dans la voiture électrique, où on voit quelque chose de plus serein, de plus lent. Même si on peut faire des voyages en vélo de 15 jours et visiter la France comme ça, il n'y a pas ce côté dangereux qu'on peut trouver beau parfois dans la littérature. Et je voulais savoir, ou dans l'idéologie en tout cas, et je voulais savoir si, selon vous, ce truc-là qui peut nous plaire va disparaître. Enfin, je suis pas littéraire, donc je n'ai pas les mots précis, mais l'idée est là. Ce côté autodestructeur, cette liberté-là, cette liberté folle, quoi, un peu adolescente, on va pouvoir la projeter sur autre chose. Ou est-ce qu'elle va tendre à disparaître et on va arriver dans une société clean, où on n'aura plus besoin de ça ?
Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je vois la tendance. Je vois la tendance. Et cette tendance, je le maintiens, elle est profondément moralisante.
Oui, ouais, on est d'accord là-dessus.
Elle est profondément moralisante. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que la chaîne des transports, elle est complexe. la production de gentrification par les tramways, elle est tout aussi discutable. Donc il y a des éléments là qui méritent d'être vraiment mis en regard et évalués, estimés. Je veux pour preuve de cela qu'en temps de crise aussi, étant donné le patrimoine reçu, patrimoine routier et autres, le schéma national des infrastructures de transport revoit de façon réaliste les projets de TGV insensés qui avaient été inventés. Les projets de transport public partout, ce sont des impôts. Ce sont des éléments de déficit public. Il y a des éléments là qui sont aussi à tout simplement dire. Alors, est-ce que c'est le lobby automobile qui le dit ? Moi, je trouve franchement d'une faiblesse le lobby automobile, incroyable. Alors, je ne suis pas là pour le renforcer. Néanmoins, il y a des éléments qui sont à prendre en considération. Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que le vélo procurerait une liberté moindre. Non, pas du tout.
C'est pas associé à la même idéologie. On n'imagine pas François Sagan sur un vélo.
Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits qui exaltent de façon littéraire le vélo. Donc,
plus serein, c'est plus tranquille, c'est moins autodestructeur. Enfin, c'est moins...
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a une culture du risque. Ben, cela, du risque, c'est ouais, aussi ce sel de la vie, c'est aussi cet élément qui fait qu'un Roger Nimier écrit des magnifiques pages et est un piètre conducteur et se tout au volant de son Aston Martin. Vous êtes là dans une logique où, et je pense quand même que tout un volet qui est très souvent méconnu parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas enseigné. Bon, ben, on enseigne des choses utilitaires, mais tout l'art aussi autour de l'automobile, tous les arts de l'automobile méritent d'être connus. Et toute société a eu ses vecteurs d'élitisme, ses vecteurs de valeurs individuelles qui, par définition, sont élitistes, évidemment. Mais toute société a pu créer des œuvres d'art qui sont déconnectées de la réalité. Les écrits de Sagan, les écrits de Nimier, ils sont déconnectés de la réalité.
Il y a les écrits d'Antoine Blondin, quand même, sur le vélo, bien sûr. Donc, oh là là, mais vous avez vu ce que vous suscitez comme...
C'est bien le moins. Hein.
Bonjour. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et c'est en lien avec ma question, je crois qu'on est plus dans la culture de la vitesse, en l'occurrence, pour la voiture, pour tous les transports en commun, d'ailleurs, de manière générale. Et je crois que le fond du problème, si on réfléchit en termes de rapport de domination, plus précisément au sein des villes, parce que c'est là que le problème se pose le plus, à mon sens. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il me semble que c'est le cas. Notamment entre piétons, entre piétons et automobilistes, pour faire plus simple. On met de côté les vélos pour l'instant. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la culture de la vitesse, qui s'oppose peut-être à une culture de la flânerie, c'est-à-dire le piéton qui se promène sans but apparent, qui ne fait autre chose que ne rien faire en vérité, ce qui est plutôt une bonne chose à mon sens, de mettre en avant cette idée de la lenteur opposée à l'idée de la vitesse en l'occurrence. Et à mon sens, le souci qu'on a aujourd'hui, et le souci qui transparaît avec la critique de la voiture précisément, c'est que cette culture de la vitesse prend le pas sur la culture de la flânerie, justement, et que la critique, elle est d'essayer de... Enfin, la critique constructive, elle est d'essayer de retrouver un équilibre entre la flânerie et la vitesse. Enfin, la vitesse, du coup, de mettre de côté la vitesse, en l'occurrence, pour pouvoir permettre à la flânerie de s'exprimer. Juste pour donner une illustration, après, c'était une remarque, en fait, plus qu'une question, c'est vrai. Mais juste pour donner une illustration, donc j'ai grandi en Bretagne, je suis arrivé à Paris. Ce qui m'a frappé, quand je suis arrivé à Paris, ce qui me frappe toujours, c'est que les gens ont peur de traverser. Les gens ont peur de traverser la voie. À Poitiers, ce n'est pas le cas. À Poitiers, vous pouvez traverser de manière relativement sereine. Vous ne vous ferez pas écraser. En fait, à Paris non plus, vous ne ferez pas écraser. Sauf que les gens ont peur de ça. Et très clairement, à Paris, la voiture a gagné, à mon sens. Et donc, d'un point de vue politique, c'est important d'essayer de rééquilibrer les choses.
Absolument. Et je plaide pour ce rééquilibrage, mais pas pour s'en enrober moralisant. Simplement, plus que la vitesse, c'est l'accélération qui est importante. Et cette donnée a été analysée par le sociologue Hartmut Rosa. Je vous renvoie vraiment à cet essai sur l'accélération en Occident et sur le renversement. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est pas d'apprendre à accélérer, c'est de ralentir. Parce que le ralentissement, et cela Paul Morand l'a exprimé très clairement aussi, un amoureux de la vitesse, un amoureux des Bugatti, qu'il ne sortait que la nuit. Hein. Paul Morand explique très clairement que c'est le frein moral qui anticipe sur le frein, le vrai. C'est-à-dire que, naturellement, il faut bien conduire. Il y a un art de conduire. Ça a d'ailleurs été écrit par Louis Baudry de Saunier au tout début du siècle. Et cet art de conduire, il est moralisant. C'est un code de morale, la rue. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une dimension chevaleresque chez les premiers automobilistes. Alors, évidemment, il y a des mufles partout, on le constate, mais on peut espérer qu'avec un peu de pédagogie, ils disparaissent. Absolument. Mais le grand luxe, c'est le cabriolet à 30 à l'heure.
Oui, en fait, moi, je vais partir de l'exemple de James Dean avec le symbole de liberté, et tout ça, sa voiture, qui roule à 50 km/h en plein désert états-unien. Donc, c'est vraiment le symbole de liberté en tant que tel. Mais moi, ce qui me choque, c'est que notamment les constructeurs français ont complètement abandonné l'idée d'une pleine sécurité, et notamment d'une assistance pour rouler. Typiquement, les tests de conduite automatique se font soit en Allemagne, soit aux États-Unis, où je dirais la culture de la marque de la voiture est la plus importante. Je pense qu'en France, le fait une conduite automatique n'ait pas lieu, en fait, c'est que je rapporte à la dépendance, à une certaine dépendance de la part des automobilistes français. Que je pense que le peuple allemand, il a accepté les boîtes automatiques, les choses comme ça.
Le peuple allemand est très fier de ces quelques tronçons d'autoroute illimités.
Voilà, exactement.
Oui. Donc, le peuple allemand est celui qui finance les marques les plus puissantes.
Voilà.
Il y a une escalade à la puissance. Je perçois, et je vais donner des verges pour me faire battre et souscrire totalement à la critique de monsieur, c'est-à-dire que je ne perçois pas la légitimité de votre critique des constructeurs français. C'est-à-dire qu'on est très très critique en France à l'égard des constructeurs français. Il y a des intérêts qui ne sont pas illégitimes chez les constructeurs français, pas moins que chez les constructeurs étrangers, et pas moins que chez les constructeurs de tramways, les bombardiers et autres. Mais il y a des intérêts économiques derrière. Et l'aspect sécuritaire, il n'est pas manqué par les constructeurs français. Là, je vous trouve très, très, très affirmatif.
Je vais revenir un peu sur tout ce qui a été dit.
Rapidement alors.
Alors aujourd'hui, on a de plus en plus d'aide à la conduite et bientôt, d'ici quelques années, on n'aura même plus besoin de pilotes. Les voitures seront automatiques. Est-ce que ça va pas changer complètement notre rapport à l'automobile et la faire retomber à un objet utile pour aller d'un point A à un point B sans avoir besoin de piloter ?
Alors ça pose une autre problématique. C'est la problématique qui est complémentaire de celle de l'auto, donc du vecteur de mobilité, qui est celle de la route. La route de la cinquième génération, la route intelligente, la route riche de données. Alors cette route, de même que les tramways ne sont pas gratuits, elle n'est pas gratuite. C'est-à-dire qu'il va falloir équiper les routes de capteurs, et c'est quelque chose de considérable à engendrer. Alors dans les zones denses, là où effectivement la somme de dépenses publiques est contrainte pour équiper les chaussées, on ne construira plus des ronds-points, il y en a plus en France que partout ailleurs, on s'étonne de certains déficits locaux. Un rond-point, c'est une catastrophe, effectivement, il faut le dire. De ce point de vue-là, vous avez... Après, l'étape suivante, ça sera l'équipement des routes. Mais on ne peut pas équiper toutes les routes. Et j'en reviendrai à une citation littéraire, Julien Gracq, qui dit « Le massif central est vide partout où j'ai le désir de le voir. » Et Julien Gracq roulait, petit R5 modeste. Mais attendez, libre à vous de quitter les itinéraires principaux, ceux qui sont recommandés sur les GPS et autres. Donc de ce point de vue-là, le seul sel de la conduite automobile, il est en dehors des grands axes. C'est évident. Et le monde de cauchemar que vous décrivez à l'instant d'une conduite totalement automatisée n'est qu'un monde de cauchemar. C'est-à-dire que Métropolis s'est fixé sur une pellicule depuis 1926.
Mais aujourd'hui, il y a des voitures qui roulent sans pilote sur des routes tout à fait normales. Il n'y a pas besoin de les équiper. Ce sera simplement la voiture en elle-même qui sera capable de le faire.
Alors, j'ai vu que jusqu'à une certaine vitesse, effectivement, même dans des voitures commercialisées, ceci est possible. Néanmoins, juridiquement, d'autres problèmes se posent. C'est-à-dire qu'il y a la question d'abdication du libre arbitre et l'abdication de la liberté individuelle du conducteur qui n'est pas soluble et n'est pas facilement, ne trouve pas facilement de solution. Donc là, il y a un autre débat, et c'est ce par quoi j'ai terminé, c'est jusqu'à quel degré d'abdication de cela est-on disposé à aller dans une société française qui est encore à mon sens, une société humaniste et libre.
Donc, va intervenir maintenant M. Jean-Bernard Saunier, qui est professeur émérite à l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique au Futuroscope, où il a enseigné la physique et les transferts de chaleur. Alors, il a conduit de nombreux travaux de recherche, dont les applications concernaient la thermique dans les domaines de l'automobile, dans celui du spatial et des industries verrières, électroniques et électrotechniques. Alors, il a exercé différentes activités, de nombreuses responsabilités scientifiques, 350 publications, parmi lesquelles on pourrait citer, donc il était coéditeur chez Springer en 2013, donc l'ouvrage le plus récent, de Global Change, Energy Issues and Regulation Policies. Il va communiquer aujourd'hui sur les énergies renouvelables, développement, enjeux environnementaux, production d'électricité. Merci, monsieur.
Merci bien et bonjour à vous toutes et tous. On a, dans ces deux jours, on a vu beaucoup en dehors de ce qu'est probablement pour les doctorants des deux écoles, hein, les sciences un peu dures en fait. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir cette ouverture sur l'écologie, sur l'économie, l'aménagement du territoire. Et puis ce débat qui vient juste de s'esquisser, mais qui est extrêmement riche, hein, avec le dernier intervenant, hein, qui mériterait d'être poursuivi un petit peu plus, mais on a des questions de temps. Alors, je vais me situer essentiellement, on va dire un mot-clé, dans la transition. Hein, on va se mettre ici, comment on peut y aller et comment, au fond, les énergies renouvelables peuvent nous aider à mieux opérer cette transition vers une société plus sobre en énergie. Alors, je vais dire, pour résumer, parce qu'on a eu déjà des interventions de Jean-Luc et puis de M. Papon hier sur les aspects environnement, sur les aspects énergie, je vais dire quelques rappels. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Le plan, bon, je vais situer les enjeux environnementaux rapidement, évoquer cette transition énergétique indispensable et en mettant l'accent sur son urgence, et je situerai la place des énergies renouvelables. Alors, je ne mettrai pas toutes les énergies, hein, en un quart d'heure et bien moins encore, on peut difficilement toutes les disséquer. Je mettrai l'accent sur le photovoltaïque et puis sur l'éolien, hein, pour choisir simplement. Et je parlerai de, justement, derrière cela, de la production d'énergie renouvelable. Alors, ces enjeux environnementaux, bon, quelques chiffres pour résumer, resituer. On a dit hier, à peu près 80% de fossiles au monde pour produire notre énergie. Les renouvelables, c'est la France, ici, essentiellement 13%. Mais attention, si on enlève l'hydraulique, si on enlève le bois, il reste un bien maigre bilan pour les nouvelles technologies de l'énergie qui sont de nature renouvelable. Le photovoltaïque, justement, l'éolien, que sais-je, les énergies des mers, par exemple. Donc, c'est prometteur, mais il faut sans doute bien faire un gros effort vu ce dont on part à l'heure actuelle en 2013 ou 2015. L'idée des fossiles, 80%, c'est le CO2. Et le CO2, c'est le drame, en fait, parce qu'on va l'utiliser, cette origine fossile, dans bien des domaines de notre vie quotidienne et on injecte du CO2 en permanent dans l'atmosphère. On a vu ces courbes hier. Les trois quarts des gaz à effet de serre, c'est le CO2. Et on a la courbe qui décolle ici de façon exponentielle comme jamais on l'avait vu dans l'histoire de la Terre. Hein. Aussi bien pour le méthane que pour l'oxyde nitrique que pour le dioxyde de carbone. La crise de l'environnement que j'esquisse, elle est effectivement liée à la crise de l'énergie. C'est ce que je vais essayer de montrer ici. Alors, parce qu'on n'a pas tous ici la culture des gens qui ont fait de la thermique sur l'effet de serre, je veux le rappeler, c'est un élément crucial. L'élément crucial, parce qu'on a tous en tête la serre du jardinier, ce qu'on a peut-être à côté de notre maison, où on met une plaque de verre, et puis le soleil, ça, il passe à travers le verre, et puis il va aller chauffer la terre et faire sortir les graines. Le verre, idée importante, la première, c'est qu'il est transparent, quasiment, hein, quasiment, je schématise les choses, dans le domaine du visible. Par contre, il est quasiment opaque dans l'infrarouge. Alors le visible, c'est 0,4, 0,7, 0,8 microns. Ça, c'est le spectre du soleil. Et l'infrarouge dont je vais parler, c'est celui qu'on émet tous ici dans cette pièce. On a un pic aux environs de 10 microns. Allez, de 8, 9, 10, 12 microns. L'infrarouge. Et c'est ce qui va se passer au fond de la serre. Elle va émettre parce qu'elle va se réchauffer. Alors premièrement, le soleil va traverser
le verre. Il va deuxièmement aller chauffer le fond de la serre. La serre va émettre du rayonnement, ces petites flèches en rouge, dans l'infrarouge. Alors là, c'est les choses qui vont se compliquer. L'énergie réémise par la serre, elle ne peut pas sortir, le verre est opaque. Ça y est, le piège est là. Le soleil s'emmagasine dans la serre. Alors il y a un équilibre qui s'établit, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais la serre s'échauffe beaucoup plus que s'il n'y avait pas la plaque de verre. Voilà l'idée toute simple, à partir de laquelle on va parler maintenant de ce qui se passe autour de la planète. Eh bien, c'est l'atmosphère et le CO2. Alors il faut faire un peu de physique moléculaire pour comprendre pourquoi. Le CO2 absorbe l'infrarouge. Et donc on va se retrouver dans une situation analogue où le soleil en jaune arrive, réchauffe la Terre, qui va émettre de l'infrarouge, qui veut repartir à travers l'atmosphère, mais il se fait absorber par le CO2. Voilà. Alors, cette idée-là qu'on va garder maintenant, l'atmosphère, c'est qu'elle joue le rôle de la vitre, et plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus elle devient opaque, à l'infrarouge, réémis par le sol. Donc, plus la Terre se réchauffe. Alors, c'est très schématique. Hein. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée est là. Plus je mets du CO2 dans l'atmosphère, et avec mes fossiles, 80%, j'en mets en pagaille, plus l'ensemble, atmosphère, terre, voire océan, va se réchauffer. Deuxième élément crucial, après l'effet de serre, le changement climatique. Alors, je passe sur ces clichés. La température augmente, on l'a ici pris sur 150 ans. Le nombre de jours froids ou chauds, anormalement froids ou chauds, est aussi l'objet d'observations qui sont bien acquises maintenant. Mais ça n'est pas le tout. C'est qu'il y a aussi, au-delà du réchauffement, il y a l'aspect précipitation. Je dois insister là-dessus. Précipitation, on vient de vivre des événements un peu violents dans le sud-ouest de la France. Et on en a vécu d'autres dans le sud-est. Il y a 3 ans, on était en congrès à Porquerolles et on a été bloqué là-bas parce qu'il y a eu les drames dans le Var, en fait, hein, les villages emportés. Donc c'est une répétition d'événements de pluie diluvienne, d'inondations nombreuses. Voilà pourquoi. Si je réchauffe l'atmosphère, chaque degré en plus autorise de mettre 7% de vapeur d'eau en plus. 2 degrés, 15%, mais c'est 15%. Il va falloir à un moment donné qu'ils se déchargent. Et ils ne vont pas vous demander l'autorisation, ils vont se décharger de façon violente, inopinée. Et c'est cela qui nous conduit à ces cataclysmes, en fait, qui sont les graves pluies diluviennes et les inondations. Alors, au-delà de ça, on a noté aussi l'élévation du niveau des mers. On en a parlé hier, donc je ne veux pas revenir là-dessus. Ça menace évidemment des zones qui nous concernent tous en Europe, les zones en vert clair sur cette courbe. Ici, dans le Poitou-Charentes, ben c'est le marais Poitevin qui peut être menacé par l'élévation du niveau des mers. Et à l'échelle de la planète, c'est un phénomène important et grave. Tous les grands deltas côtiers sont menacés. Or, on assiste à une concentration des populations dans les deltas côtiers. Voilà, le risque est majeur, en fait. Hein. Réchauffement, inondation, bon, je passe sur ces clichés, malheureusement, bon, vous les avez déjà observés dans d'autres circonstances. Et je rappelle la courbe présentée par Jean-Luc Demenet, qui nous dit cette augmentation de la température, ce CO2, est d'origine anthropique. C'est les courbes qu'il a présentées hier pour bien montrer qu'en rose, c'est les prédictions des modèles qui impliquent l'injection de CO2 par l'activité de l'homme, par l'usage des fossiles pour l'énergie, et ça colle bien avec ce qui est en noir, qui sont les mesures. Alors, ce qu'on peut quantifier, on a dit 2 degrés hier, souvenez-vous. Ben, 2 degrés, c'est grave. Mais oui, c'est grave. C'est très grave, 2 degrés. En gros, même s'il y a des fluctuations d'un point à l'autre de la planète. Ça veut dire fusion de la glace des calottes polaires, montée des mers, fusion des glaciers. Alors, on était il y a un mois au Tibet. Et le guide nous a montré un glacier, on était à 4200 mètres. Et voilà, il a perdu un tiers à peu près, hein, ce glacier-là, de son extension. Et dans moins de 15 ans, il a disparu. Il est à 5000 mètres. Alors, j'aurai des planches sur les glaciers des Andes tout à l'heure. C'est l'assèchement des rivières. Les glaciers, c'est l'alimentation des fleuves autour de l'Himalaya. S'il n'y a plus de rivières, bah, ça veut dire que ça menace la vie des hommes tout autour. C'est aussi, s'il y a réchauffement, la libération du méthane du permafrost. Mais si le méthane est là, il va encore accélérer le réchauffement, puis c'est un gaz à effet de serre. C'est la machine qui s'emballe. Dérèglement climatique, inondations, etc. Le voilà, la planche qui m'intéressait, c'est là à droite, c'est un glacier qui, dans les Andes, entre, disons, une quinzaine d'années, eh bien, il a disparu, effectivement. Ce sont là des observations irréfutables. Alors, une autre observation qu'on n'a pas vue hier, qui est importante, me semble-t-il, c'est l'échelle des temps. Est-ce que ça va vite? Alors, à notre échelle, la vie d'un homme, oui, ce qu'on vient de mentionner, une quinzaine d'années, ça va vite. Regarde le scénario qui a été proposé par les gens de l'IPCC, dont Jean Jouzel. C'est ici l'idée qu'on est capable de maîtriser le CO2. Alors, c'est la courbe en marron. On va dire, allez, en une, deux, quelques décennies, on a maîtrisé, je suis en train de la parcourir, elles disparaissent, les émissions de CO2. Combien de temps va-t-il falloir pour que les choses s'arrangent? Alors, en deux décennies, regardez cette distance, c'est un siècle jusqu'à la barre rouge. En deux, trois décennies, on a réussi, avec tous les efforts de la communauté internationale, à limiter, à maîtriser, à faire diminuer le CO2 qu'on injecte. Combien de temps ça va rester? Regardez en rouge, c'est la température moyenne de la planète. Elle continue, sa constante de temps, elle est à l'échelle de plusieurs siècles. Voilà ce que je veux montrer. C'est un phénomène qui nous concerne tous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, et à un nombre de générations important. Si je parle dilatation des mers, et oui, si elle se réchauffe, la dilatation des mers fait monter le niveau. Les fusions de fonte de glace et les courbes en bleu, regardez les constantes de temps, c'est à l'échelle de millénaires qu'on peut voir ça. Et même si, pour résumer, la concentration en CO2 dans l'atmosphère au bout d'un siècle s'est stabilisée, la machine est emballée. Voilà, je veux attirer l'attention sur cette constante de temps. Troisième élément crucial, on l'a vu, Jean-Luc l'a montré hier, c'est la raréfaction des ressources. Même si, vous avez raison, on a prédit plusieurs fois que le pic arrivait, même si on met les ressources non conventionnelles, et on en a parlé à travers les gaz de schiste, l'offshore profond, etc., il y a de toute façon un caractère fini des ressources, même s'il faut décaler la position du pic dans le temps. Alors, ce qu'on dit là, c'est vrai pour le gaz, on l'a vu hier avec M. Papon, je pense, ou Jean-Luc, je ne me souviens plus. C'est vrai pour le charbon, avec des horizons temporels différents. C'est vrai aussi pour le granulat, mais c'est vrai aussi pour les matériaux dont on a besoin dans les nouvelles technologies. L'indium pour le photovoltaïque, le platine pour la pile à combustible, le lithium pour les batteries, on en a en quantité limitée. Hein. Donc, ce n'est pas comme si on avait une réserve dans laquelle on peut payer sans conséquence. Quatrième aspect, je termine là-dessus mon introduction, c'est les conséquences économiques, sociétales ou géopolitiques. Économiques, ben voilà, renchérissement du coût de l'énergie, raréfaction, les prix de revient des matériaux usuels de notre vie quotidienne augmentent, accroissement des déficits, des états, de la dette. Bon, pour citer quelque chose qui nous concerne au niveau de la France, les fossiles en importent à peu près 70 milliards et je veux le comparer à l'IRPP, l'impôt sur le revenu, c'est à peu près autant. Donc voilà l'ordre de grandeur. Le déficit, c'est aujourd'hui entre 60 milliards, c'est presque 70 milliards. Les ordres de grandeur sont là. C'est un problème majeur pour nos économies. Alors, vous imaginez les réponses auxquelles d'ailleurs l'Europe est en train de faire face. Au plan sociétal, j'ai voulu illustrer par la précarité énergétique. Un ménage est considéré en situation de précarité s'il éprouve des difficultés pour se chauffer, parce qu'il n'a pas les ressources, parce que son habitat est de mauvaise qualité, et qu'il faut l'améliorer, et qu'il faut trouver de l'argent pour ça. Ce n'est pas facile. On dit un seuil, il faut bien fixer un seuil lorsque la facture énergétique rapportée aux revenus disponibles est de l'ordre de 10% au moins, en fait. Voilà où on déclenche le seuil énergétique. Est-ce grave? Regardez, en France, on a 15% de la population en moyenne dans cette situation-là, avec une forte disparité. 13% dans l'Ain, mais presque 20% dans le Poitou-Charentes. Sachez-le, nous vivons dans une région qui est en situation de précarité énergétique. Alors, sur le dernier point, je pense à l'aspect géopolitique, on vient de voir donc tout ce qui est canicule, inondation, moustiques. On a parlé hier des remontées des moustiques qui donnent les maladies, le chikungunya, la dengue, etc. Il paraît même qu'on en trouve sur la côte atlantique maintenant. C'est un problème de santé publique. Derrière, la crise conjuguée environnementale et énergie. La fonte des glaciers de l'Himalaya, ben c'est la désertification, c'est le problème de l'eau, en fait. Les inondations, les sécheresses, c'est quel territoire? On va avoir des gens qui ne peuvent plus rester là où ils étaient. Leur zone devient désertique, impossible de vivre. Que va-t-on faire et comment va-t-on gérer ces réfugiés climatiques? C'est l'altération des cultures, donc on en remet une couche, le problème de l'alimentation et des cultures. Autrement dit, la crise énergétique et environnementale, les crises conjuguées, nous pose des problèmes majeurs à l'échelle géopolitique. Je voudrais ajouter qu'on a mis l'accent, on a lancé l'alerte, c'est le rapport Stern, il date maintenant, ça fait plus de 6 ans, ça fait 7 ans en fait, pour retenir l'essentiel, les effets qu'on sera à même, parce qu'on n'a pas fait grand-chose encore sur le réchauffement climatique, les effets qu'on va essayer d'induire, ils vont prendre du temps. C'est l'idée de ma constante de temps de tout à l'heure. Si on travaille maintenant, ça va faire un effet limité sur les 50 ans qui viennent. Ma fin de vie, ça sera même certainement avant. Si on travaille dans les 10-20 ans qui viennent, ça sera à l'échelle de la seconde moitié du siècle. ou le siècle suivant. Autrement dit, voilà, on retrouve ici le fait qu'il faut agir vite et malgré ça, on n'aura pas des effets à l'échelle d'une vie humaine. Deuxième idée dans le rapport Stern, c'est que les bénéfices d'une action qu'on souhaite forte et rapide, c'est-à-dire tout de suite, vont dépasser considérablement les coûts. Plus on attend, plus ça coûtera cher, si on ne fait rien. Alors, comme on est déjà en crise économique et financière, attendre accumule en fait les difficultés pour pouvoir résoudre ce problème-là. Voilà, donc je conclue cette première partie, disant que cette conclusion du rapport Stern et puis le PICOIL, schématiquement, nous amène à dire qu'on est dans une situation de contexte d'urgence et une contrainte très forte qui est la fin du pétrole à bon marché. Je ne sais pas où notre collègue... C'est la fin du pétrole à bon marché, pas la fin du pétrole. Plus il va falloir aller chercher en offshore profond les gaz de schiste, etc., plus ça va coûter cher. Donc là, il y a un véritable problème. Venons-en maintenant à la nécessité, je pense qu'on l'a compris, d'avoir une transition énergétique. On va prendre le scénario que Jean-Luc a présenté hier. Scénario du 450. On est à 300, combien tu as dit Jean-Luc ? 80, 390 ppm à l'heure actuelle. Bon, l'idée, et tous les spécialistes de climatologie ont mené ensemble des calculs pour voir quelles étaient les évolutions possibles qui permettent de conserver cette vie, ne pas dépasser 2 degrés, au fond, c'est ça. Pour cela, si on le traduit en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère, il ne faut pas dépasser 450 ppm. 380 à 450, ça ne fait pas lourd comme marge de manœuvre. Alors, ce scénario-là, donc, il vise à stabiliser la concentration dans l'atmosphère à 450 ppm. Et au fond, si on veut le voir comme traduction en termes d'élévation de température, il donne, attention, vous savez, les modèles des climatologues, ce n'est pas des modèles exacts, il y a une part d'incertitude, une fourchette d'encadrement, eh bien, il offre une probabilité, c'est déjà bien, de dire il y a 50% de chance, si on fait ça, pour qu'on limite le réchauffement aux 2 degrés. Là où la machine va commencer à s'emballer. Alors, voilà ici ce qu'on doit à l'Agence internationale de l'énergie, un scénario, on le traduit, ce scénario 450, dans un diagramme où on a les émissions annuelles de CO2, émissions mondiales, en gigatonnes, en ordonnées, et en abscisse, le temps. Alors, la courbe en rouge, c'est le scénario de référence, le business as usual. On ne fait rien. On n'a pas envie, on a d'autres problèmes et on continue. Donc, on est ici en 2010-12, on est à 30 gigas, on passe à 40, à 2030. Et puis, voilà quand même, c'est une des retombées des travaux de ce groupe de l'IPCC, ou du GIEC, les pistes pour lesquelles on peut espérer des solutions, et je vais les commenter. Vous voyez, ces pistes-là vont faire qu'au lieu d'aller sur 10 gigatonnes de plus à échelle de 30, de 20 ans d'ici là, on va maintenir à peu près à ce qu'on a et voire diminuer. Comment faire ? Eh bien, ces clés-là, je les commente maintenant. Ces pistes-là, je vous propose de les regrouper en 2 grands paquets. Le premier, qui correspond à la zone bleutée, c'est jouer sur l'efficacité énergétique. En gros, on peut faire un effort, et c'est la recherche, c'est la technologie qui sont concernées par cela, pour maîtriser cette augmentation de la production de CO2 à hauteur de 50% de ce qui se passerait si on ne faisait rien. Le deuxième paquet, c'est en vert ici, c'est la production d'énergie avec moins de carbone. On fait attention au carbone, moins de carbone. Et je vais prendre là-dessus, vous voyez le paquet en vert, le renouvelable. On y vient, le renouvelable a toute sa place dans la transition énergétique. Voilà, il y a quelque chose qui a sauté. Bon, ben, peu importe, disons qu'en gros, le renouvelable, le paquet, là, à échelle de 2030, à peu près le quart de l'effort. Les renouvelables en eux-mêmes nous portent un potentiel pour maîtriser à environ 25% ce qui serait, si on ne fait rien, l'augmentation de la production de CO2. Alors, améliorer l'efficacité, ce n'est pas l'objet de mon propos, mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'est-ce que ça recouvre. Eh bien, c'est récupérer de l'énergie là où on le peut. Dans l'industrie, là où on chauffe et on envoie la fumée dans l'atmosphère. Voilà, dans l'industrie verrière, par exemple. C'est améliorer les rendements en mettant en place des cycles combinés, en provoquant de la cogénération au lieu de faire de la chaleur pour chauffer ma maison. Les gaz que je fais partir dans la cheminée, je vais les faire travailler dans un moteur pour me faire coupler à un alternateur de l'électricité. Cogénération. Donc, récupérer, cogénération. Et puis, pensons à la maîtrise de la demande. Voilà, ce sont des pistes tout à fait classiques. Je voudrais insister, on parle d'électricité. Je me suis calé sur l'électricité dans l'exposé. Avant même d'aller sur les renouvelables, en termes d'efficacité ici pour le génie électrique, j'ai 3 pistes à vous proposer. On prend comme référence la consommation de la France, ou la production, pardon, de l'électricité à 500 TWh, en gros. Eh bien, première piste, on évalue à près de 43% ce qu'on peut économiser en améliorant les moteurs et en systématisant la variation de vitesse. Si on ajoute ce qu'on peut gagner sur l'amélioration de la conception des moteurs, on a à peu près 10%. Deuxième piste, dans tous nos appareils domestiques électriques à la maison, on estime également qu'on peut gagner 10%. Enfin, l'éclairage. Et je vais insister sur l'éclairage sur la planche prochaine. L'éclairage, c'est 50 TWh. Là-dessus, on peut, avec les nouvelles technologies, qui sont les diodes électroluminescentes, envisager de gagner à peu près 5% de plus. 5% de nos 500. En gros, regardez, ajoutez les flèches en rouge. Voilà quelques pistes où l'on peut réaliser 25% d'économie. C'est des petits ruisseaux qui font en convergeant des grandes rivières. Alors, l'éclairage, 10% de la consommation électrique, une lampe à incandescence, c'est moins de 5% les filaments de tungstène. On n'en trouve plus. Bon, on avait sans doute quelques raisons de les éliminer. Et si on va sur les LED, eh bien là, on a, de par nos spécialistes, le moyen de gagner quelque chose qui est de l'ordre disons, augmenter d'un facteur de le rendement. Ça veut dire qu'on est capable de récupérer, si l'électricité représente 10% de 500 TWh, ça fait 5 tranches nucléaires, on est capable de gagner l'équivalent de 2 tranches nucléaires en faisant travailler la recherche et la technologie, mais aussi l'industrie, sur le problème des nouvelles lampes pour l'éclairage. Piste de recherche, on va juste le dire ici sur l'électricité, les matériaux. Moins de pertes magnétiques, moins de pertes électriques, l'électronique de puissance pour gérer en limitant les échauffements. Tenez, les grands centres de calcul qui génèrent de la chaleur, eh bien là, récupérer, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, piloter la vitesse des machines, voilà quelques pistes où la recherche est convoquée dans le domaine du génie électrique. J'en viens à la place des énergies renouvelables. Alors, ici, je reprends mon diagramme. C'est un diagramme clé qu'on doit à l'Agence internationale de l'énergie qui nous trace les pistes. Voilà, sur la deuxième partie envers l'énergie décarbonée, les énergies renouvelables, c'était là que je voulais ma flèche, 25%. C'est un potentiel qu'on ne va pas négliger, bien sûr. Alors, l'idée du renouvelable, voilà. Je veux d'abord dire les fossiles. Ah ben, on a vu hier un certain nombre d'exposés, c'est dans le sol et on a un réservoir, mais quand on l'a fini, le réservoir, puis il restera un peu parce qu'on ne peut pas aller au bout, ben c'est fini, il n'y a plus de réserve. Donc voilà l'idée, c'est qu'on ne peut pas recharger les réservoirs de pétrole, de gaz, de charbon, etc. Voilà. Le caractère renouvelable, c'est au contraire l'idée dans un grand réservoir. Je prends le cas du soleil. Bon, le soleil, il revient tous les matins, on peut lui faire confiance, il va nous apporter de l'énergie à notre échelle de temps, même si un jour lointain, que personne parmi nous ne connaîtra, le soleil disparaît, c'est un énorme réservoir d'énergie qu'il faut mettre à notre disposition. Alors, les différentes formes d'énergie, je dirais, voilà, je vais partir de là. La formation de la Terre, bon, compliqué le début, hein, je ne veux pas me lancer dans ce qu'était l'énergie du Big Bang, mais la formation de la Terre, c'est quoi? C'est des particules qui étaient déjà fabriquées, qui sont agrégées, on a vu le Soleil, on a vu les planètes mettre en place. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a piégé l'énergie thermonucléaire du Soleil. On a piégé un peu de radioactivité dans la formation de la Terre, qui est stockée. Et puis, les planètes se mettant en place, eh bien, la mécanique du système a fait qu'on a une énergie à notre disposition. Et tout ça, on l'exploite aujourd'hui. Ça crée nos énergies primaires. J'ai mis en vert ce qui était renouvelable. Alors, l'énergie thermonucléaire du Soleil, bon, c'est le Soleil qui apporte de l'énergie sur la Terre. On l'a sous forme de soleil chaleur, soleil électricité. L'éolien et aussi les vents, c'est à l'origine donc créé par le Soleil. La biomasse pousse avec le Soleil, la houle grâce au Soleil. Qui crée les vents. Par contre, les combustibles fossiles, ben, le soleil a eu sans doute son rôle à un moment donné, mais on le considère comme non renouvelable, bien sûr. La radioactivité, ben, je parlerai d'une part de la géothermie, nous est due à la radioactivité, et puis les marées pour l'énergie mécanique système solaire. En vert, voilà l'essentiel des grandes énergies qui sont liées à notre origine et à la formation de la Terre. Les vecteurs associés, eux, c'est le vecteur classique. Pour l'électricité, je ne vais pas les commenter, mais vous connaissez le photovoltaïque, l'éolien, l'hydraulique. Là, j'ai mis aussi la houle également, hein, la houle avec les travaux qui viennent de Nantes, du laboratoire de Nantes, sur la récupération de la houle avec une espèce de système où il y a un pendule à l'intérieur qui oscille, qui anime un moteur et qui crée du courant. Les vecteurs chaleur, bien sûr, je pense au soleil, le carburant, vecteur dense s'il en est, hein, les carburants, et puis je peux ajouter l'hydrogène. Alors l'hydrogène, je le vois comme renouvelable à partir du moment où j'utilise la décomposition de l'eau par action du soleil et des algues. Ce sont les biologistes qui nous ont mis sur cette piste-là. Et puis, à partir de la compréhension de ces phénomènes, on a pu mettre en place au laboratoire le cœur des mécanismes de réaction des algues sous forme de réacteurs de laboratoire. Produire, transformer l'énergie solaire, stocker l'énergie solaire sous forme d'hydrogène. Voilà. Deuxième clé, vous le savez bien, c'est le gros reproche qu'on adresse à un certain nombre, pas à toutes, d'énergies renouvelables, c'est le caractère intermittent. Alors là, j'ai classé des énergies renouvelables qui sont stables dans le temps, qui ont une production régulière, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, et puis l'hydrolienne, d'une certaine façon, les courants sont relativement réguliers. À l'inverse, production irrégulière, parce que le vent décide parfois de s'arrêter, le soleil décide parfois aussi de s'arrêter, en particulier la nuit, mais quand il y a des nuages, et puis le solaire... Vous savez, thermodynamique dont a parlé Pierre Papon hier, c'est avoir toute une série de miroirs au sol qui concentrent le soleil en haut d'une tour, hein, où on va atteindre le millier de degrés. Là encore, si le soleil n'est pas au rendez-vous, il n'y a plus de production. Donc voilà, différence entre les énergies renouvelables qui sont fiables parce que production constante dans le temps et celles qui sont intermittentes. Et il faudra voir comment agir à l'égard de cette intermittent. Alors, je donne quelques... Combien j'ai encore ? Un quart d'heure. Bon. Alors, je donne ici quelques classifications, leurs avantages et inconvénients. Le réservoir potentiel d'énergie primaire est gigantesque pour ces énergies renouvelables. Certains ont fait les calculs. Pour la géothermie, on a un potentiel. Un potentiel, ça ne veut pas dire que sur le terrain, on va le réaliser. Mais on a un potentiel qui permettrait de couvrir à peu près le quart de la consommation mondiale. Pour l'hydraulique, production électrique, c'est 50%. L'éolien, c'est 100 fois la consommation. Et hier, Pierre Papon le disait, ou Jean-Luc, pour le photovoltaïque, la réserve, ce qui arrive sur la Terre, ce qui est théoriquement disponible, c'est 10 000 fois la consommation. Alors comment on fait face à tout ça ? C'est un défi, en fait. Hein. Deuxième intérêt, je dirais, l'impact environnemental est faible, en général. C'est l'idée qu'on se fait. On verra, on discutera tout à l'heure. Et puis, le vent, le soleil, la mer, bon, c'est assez bien distribué. Ça n'est pas dans des zones qui sont peu stables, en fait, qui peuvent être sujets à conflits, en fait, sur la planète. C'est aussi exploitable à petite échelle. Vous pouvez mettre une éolienne chez vous, vous pouvez utiliser le soleil pour faire du capteur thermique ou du capteur photovoltaïque. Inconvénient. Alors, je voudrais les souligner parce qu'on croit que c'est infini comme potentiel, ça n'a que des avantages, c'est pas tout à fait vrai, il faut être honnête. Il y a des coûts élevés encore. Je les donne en bas, les coûts de nos énergies. Alors, j'ai mis l'hydraulique, le charbon nucléaire à gauche. Bon, c'est en euros par mégawattheure, donc par quantité d'énergie, autour de 20, autour de 30 en moyenne. Le gaz à 77, l'éolien à 60, bon, c'est un ordre de grandeur. Par contre, le soleil, c'est de 200, c'est de 20 pardon, à 400. Donc, c'est en général des coûts aujourd'hui, j'ai une planche qui va inciter pour dire attention, ne pas condamner une énergie quelle qu'elle soit à partir du moment où aujourd'hui on le trouve cher, polluant, etc. Le rôle de la science et de la technologie, ben, c'est justement de faire en sorte qu'on abaisse les coûts, on diminue les pollutions et on fasse en sorte qu'on livre à la disposition des citoyens des énergies dans des conditions raisonnables. Mais on peut dire que les coûts sont élevés. La surface au sol, on va voir sur la planche suivante, c'est parfois important. Il y a l'intermittence. Alors, regardez l'intermittence. Si on prend l'éolien, et puis on peut le dire pour le photovoltaïque, lorsqu'il y a coupure de vent, coupure de courant, eh bien, il faut quand même produire. Si on l'a mis sur le réseau, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'utilisaient. Et si on n'en a plus, il faut rapidement trouver une solution. Et pour trouver la solution la plus rapide, eh bien, il faut démarrer des centrales à gaz. Ça veut dire qu'il faut investir en centrales à gaz et les centrales à gaz vont faire du CO2. Autrement dit, le caractère intermittent est un gros obstacle parce qu'il amène à prévoir de quoi répondre à la demande s'il n'y a plus de vent ou de soleil. Et donc, je fais du CO2 et c'est un coût supplémentaire à cause de l'investissement. Alors, on va parler du stockage là-dessus parce qu'il y a des pistes tout de même pour améliorer. L'impact environnemental, l'acceptabilité, je discuterai chemin faisant cet aspect-là et puis je reviendrai sur la conclusion, sur l'aspect acceptabilité. Alors, côté investissement, voilà ici un tableau qui m'a semblé intéressant de rapporter. Vous avez bien tous suivi la querelle à propos de l'EPR et du coût qui s'est emballé. Une centrale nucléaire, c'était une tranche, en tous les cas, 3 milliards, aux environs 3 milliards. Et le prix a dérapé pour l'EPR. C'est le premier, c'est une technologie nouvelle. Bon, il a dérapé, il est à 8 milliards, je prends ça, comme point de repère. Alors, j'ai pris comme idée que j'ai un EPR à 1600 MW et qu'il produit en gros de l'ordre d'un petit peu plus de 10 milliards de kWh. Et il a coûté 8 milliards. Voilà ma référence. Si je veux faire autant en éolien ou en photovoltaïque, combien me faut-il? Alors, j'ai cité là deux exemples. L'un tout récent, qui est l'éolien des Quatre Fauts, c'est dans les Ardennes. Là, on a les plus grandes éoliennes, on a du 7 mégas, 7 mégas et demi même. Eh bien, pour arriver à faire l'équivalent de l'EPR, il faudrait à peu près 20 parcs, équivalent à celui des Quatre Fauts. Ça veut dire 14 millions. Oh, 14 millions, ce n'est pas encore scandaleux. C'est la moitié pour l'EPR. Bon, ça reste d'un ordre de grandeur à peu près similaire. Sur le photovoltaïque, je prends la centrale de Toul. Vous savez, c'est une ancienne base nucléaire qui a été transformée en centrale de production. Ce n'est pas la meilleure région en France. Il y a du soleil certainement plus au sud, en quantité plus raisonnable. Mais on avait cette disponibilité de la base. Alors, pour faire autant qu'un EPR, il faudrait à peu près 60 fermes solaires. 60 fermes solaires. Et ça représente 27 milliards, c'est-à-dire 3 fois. Voilà, on reste dans des ordres de grandeur qui sont de 2 à 3 fois l'EPR. C'est encore important, mais je voudrais attirer l'attention sur un autre aspect, que la surface au sol est quand même très importante. L'éolien, c'est 600 contre 50. Alors, il s'agit d'hectares. Ici, 50 pour l'EPR, 600 pour les... Et pour le photovoltaïque, eh bien, c'est de l'ordre de 22 000 hectares. Si je veux avoir l'équivalent. Bon, donc, une emprise au sol, c'était la planche précédente. Je voulais justifier une emprise au sol plus importante peut-être que ce qu'on peut avoir en tête. Alors, après cela, eh bien, venons-en maintenant à la production d'électricité. Parce que je vais laisser de côté la biomasse, la production des agrocarburants, par exemple. C'est un pan important des énergies renouvelables. Bon, je ne pense pas avoir le temps de le discuter ici. Cependant, j'ai sous la main, en réserve, si quelqu'un le souhaite, une discussion possible sur, vous savez, cette polémique qu'on a lancée entre la concurrence, paraît-il, que l'on allait générer entre les cultures vivrières et les cultures industrielles. Bon. J'ai quelques éléments qu'on peut discuter là-dessus. C'est peut-être pas si sûr que ça, qu'il y ait une menace sérieuse à l'égard du problème de la fin de l'entre-deux-mondes et de son accentuation si on se lance vers la production d'énergie à partir des cultures pour aller faire des biocarburants, qui sont d'ailleurs des agrocarburants, à condition d'être raisonnable. Le tout est là. Alors, cette production d'énergie renouvelable, j'ai commencé, je disais en introduction, je vais faire l'éolien et puis le photovoltaïque. Voilà où on en est. C'est la croissance au cours du temps. C'est une planche de Michel Combanou ici, de la dimension et puis de la taille, la production des éoliennes. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai rajouté l'éolienne des Quatre Fauts, qui est en 2012 capable de produire plus de 7 mégawatts. C'est peut-être autour du déploiement de l'éolien que je voudrais dire deux mots maintenant. Alors, on garde en tête ces idées. La France est une production de 500 TWh et une éolienne travaille, parce qu'il n'y a pas toujours du vent, entre 25 et 30% du temps. Voilà, un ordre de grandeur raisonnable. Alors, fin 2011, là, tout de suite, on a pratiquement 3700 machines, c'est-à-dire 7 gigawatts. On a installé combien de 80 gigawatts en France, en gros, globalement. Horizon 2020, donc pas très loin maintenant, on a planifié une installation de 20 gigawatts, ça veut dire 6000 nouvelles machines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on aura deux fois et demi plus de machines qu'aujourd'hui. Alors, certains ont mis ça sous la forme d'un carré, 2500 km², un demi-département. Il faut rajouter l'offshore. L'offshore ferait une... dans les plans qui sont envisagés à l'heure actuelle, un peu plus de ces 19 gigawatts, mais globalement, offshore et onshore, cette progression qui est la perspective à horizon 2020 pourrait représenter 45 TWh, ça fait 10%, en gros, hein, avec la part d'incertitude qu'on peut avoir dans la planification. Les contraintes, il faut du vent suffisant. Il faut aussi les tenir à distance respectueuse des zones urbaines, des sites protégés, Natura 2000, on n'en veut pas. Certains disent attention au passage d'oiseaux migrateurs. Il peut y avoir chauve-souris également. Il peut y avoir aussi des servitudes techniques, bon, à propos des radars. Donc on ne peut pas en mettre partout. Et bon, vous avez dit un demi-département, ce n'est pas bien grave. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas que ce soit chez moi, là. Hein. Vous savez, en Creuse, par exemple, ou en Lozère, là où il n'y a pas de monde, hein, Creuse ou Lozère. Hein, bon, c'est le symbole, je ne le veux pas dans ma cour. Quoi, hein, donc ce n'est pas si facile que ça de dire oui, un demi-département, c'est fait. Non, c'est significatif. C'est significatif. Alors, la question qui est, première question qui est posée, quelle part du territoire est-on prête à concéder aux éoliennes? Où? Là, le problème va commencer à se corser. Alors, je voudrais, sur l'éolien, dire quelques problèmes. On a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas de problème sur l'éolien. Si, il y a des problèmes. Je vous propose de considérer le premier qui est lié. Vous savez, des éoliennes, c'est des machines qui ont besoin d'aimants permanents. Et les bons aimants permanents, c'est du samarium cobalt ou c'est du néodyme ferbor. Et dans néodyme ferbor, il y a le néodyme qui est une terre rare. Et le problème, vous le savez, on l'a évoqué, c'est la disponibilité des terres rares. Tenez, pour situer un ordre de grandeur, une éolienne de 2 mégas, c'est 600 kg de néodyme. 600 kg, plus d'une demi-tonne. Alors quand vous mettez des dizaines, pour ne pas dire plusieurs dizaines de ces éoliennes-là, il faut pouvoir disposer des terres rares. Actuellement, il se trouve que c'est la Chine qui les a. On en avait dans le monde occidental, aux USA, en Australie, au Canada. On a fermé les mines pour des raisons diverses. Ce sont les Chinois qui exploitent. Ce n'est pas facile. C'est polluant, l'exploitation des minerais pour avoir les terres rares. C'est eux qui les ont. Et surtout, ils se sont dit, bien, on va d'une part faire monter les prix. Bah, ils sont en situation quasiment de monopole. Et puis, eh bien, on va les garder pour nous aussi. D'où la crise. On a eu la crise du platine à un certain moment sur les pots catalytiques. Bien, on a la crise sur les terres rares à l'heure actuelle. Et le problème n'est pas soluble facilement parce qu'on a fermé les mines et qu'il faut du temps pour rouvrir. Alors, on peut travailler de nouveaux matériaux magnétiques. J'ai cité ici l'hexaférite. C'est un labo à Caen qui travaille là-dessus, hein, pour remplacer les terres rares qu'on utilise dans les éoliennes. Deuxième problème clé. Si vous êtes un producteur sérieux, vous avez quelqu'un qui vend le courant, c'est EDF. EDF vous dit, OK, tu me vends du courant, mais il faut me donner une garantie. Et si tu ne fais pas ton énergie, pénalité. Donc la grande difficulté, en fait, avec ces problèmes d'éolien ou de photovoltaïque, c'est s'assurer qu'on saura prédire la production. Et quand on va s'engager auprès d'EDF, on ne va pas se tromper sur le chiffre qu'on va signer, parce qu'après, eh bien, on va avoir les pénalités, on va peut-être perdre la société. Hein. Donc, il faut passer par là. Il y a des mécaniciens des fluides ici, et bien, je suis heureux de dire qu'il y a du travail pour les mécaniciens des fluides dans le domaine de l'éolien, c'est l'analyse détaillée de la distribution des vents, c'est-à-dire la direction, les modules, la variabilité, la connaissance de la variabilité à petite et grande échelle de temps. Petite échelle, c'est les rafales, qui sont plusieurs types, en fait. Et les rafales, ça se coule, l'éolien. Ça, c'est un peu la durée de vie qui est derrière. Il ne faut pas détruire parce que j'ai des rafales qui ont des mauvaises fréquences à l'égard du système mécanique que constitue l'éolienne. Et puis, dès qu'il y a une pale qui est atteinte, quand ça tourne, eh bien, les systèmes de rotation, s'il y a un ballot quelque part, ça se transmet sur les autres pales. Donc, c'est un véritable problème. Alors, il faut mettre en place des lois statistiques. C'est très sérieux. Il y a des traitements mathématiques pour avoir le moyen d'avoir une bonne qualité de prédictibilité du vent et donc derrière de la production et de ce que je sais pouvoir vendre ou ne pas pouvoir vendre à EDF. Reste le problème de l'intermittence et du stockage. Alors, j'ai ici mentionné le stockage par air comprimé. Ben, ça veut dire que je prends un compresseur puis je fais tourner avec du courant électrique produit par l'éolienne. Je comprime de l'air. Ben, les batteries, lithium-ion, de l'hydrogène ou bien les systèmes de stockage par pompage. Alors, il y en a un qui est illustré ici, stockage par pompage. Et j'étais la semaine dernière à une thèse à Paris. C'est Aurélien Bertin qui présentait ça à l'Institut de physique du Globe. Son projet, c'était l'étude du couplage entre l'éolien et le photovoltaïque à la Martinique, hein, donc quelque chose de tout à fait intéressant pour la population qui est là-bas. Et il a proposé un système de stockage ici par air comprimé. Qui a, alors, stockage air comprimé, c'est pas bon, 30% de rendement, mais Si on pouvait gagner là-dessus, alors ça change complètement la donne. C'est pour dire que dans tous les systèmes où on parle de production d'énergie, on a intérêt à regarder les rendements et les améliorer. Ce qui est en haut ici, en rouge et bleu, ça veut dire que quand je comprime un gaz comme l'air, eh bien, il va s'échauffer. Et cette chaleur, eh bien, je l'éjecte, je la perds si je n'y fais pas attention. Et quand je vais le détendre, production de froid, donc je vais perdre en rendement. L'idée ici est de stocker la chaleur produite par compression et de l'utiliser ensuite pour réchauffer l'air au moment de la détente, de façon à ce que globalement, le rendement de la chaîne de stockage passe de 30 à 60. Là, c'est un autre enjeu. Là, ça vaut la peine. Voilà. Voilà une idée qui me semblait importante et qu'on doit, pas simplement à Aurélien Bertin, mais en particulier parce qu'il a fait l'étude détaillée de ce système. On va passer au deuxième type de production d'énergie électrique, le photovoltaïque. Bon, l'envolée exponentielle est connue de tout le monde ici, hein, au plan de la planète. Voilà la centrale de Toul, hein, la plus grande centrale française. Quelques points de repère. Alors, c'est la notion de puissance crête que je veux mentionner ici. La puissance crête d'un système photovoltaïque, lorsqu'on lui envoie le maximum de ce qui peut être l'énergie incidente du soleil au sol, c'est 1000 watts par kilomètre carré. Par mètre carré, pardon, 1000 watts. 1000 watts, eh bien, la puissance crête, en gros, selon les technologies, c'est la centaine de watts. Derrière, en énergie électrique. Alors, je passe tout de suite à l'idée, une maison qui a 10 mètres carrés de panneaux, eh bien, elle peut envisager de produire 1 kilowatt crête. Sur une année, ça va faire 1000 kilowatts. Heure, 1000 kilowattheures. Une ferme de 1 mégawatt, hein, si j'ai dimensionné à 1 mégawatt, il fera 10 000 mètres carrés de panneaux, le gigawattheure et 2 hectares au sol. Alors, tout ça pour dire, je vais maintenant aller voir si je voulais produire mon énergie électrique par le photovoltaïque en France. 500 TWh, 500 gigas. Et le pourcentage ici de territoire, eh bien, on le calcule, on fait des 1000 km, c'est 2 départements. 2 départements, touche, touche, il n'y a que ça, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mouton dessous. Hein, c'est du photovoltaïque à perte de vue. La Vienne et les Deux-Sèvres. Alors, vous savez bien que moi, je le disais, vous êtes peut-être d'accord, vous, mais moi, j'en veux pas. Ici, tout de suite, je le veux beaucoup plus loin. Comme les éoliennes, je ne veux pas les voir. C'est pas beau, les éoliennes, hein, vous êtes d'accord, hein. Ça fait du bruit, oui, oui. Ça tue les, que vous avez dit, les chauves-souris. Bon. Alors, restons raisonnables, imaginons 10% de la consommation nationale. Alors, avec ce calcul simpliste, c'est 0,2 départements, mais il faut rajouter des pertes, il faudra le transporter, il y a l'intermittence qui n'est pas résolue, disons, c'est le demi-département ou le département. Voilà. Donc, si je compare à la réalité, fin 2011, la France, c'était pas 500 gigawatts en photovoltaïque, c'était pas 10%, ça fait 50 gigawatts, c'était 4. Voilà. On est largement en dessous de ce qu'on penserait raisonnable ici, en disant, je vais essayer, non pas le mettre sur un département, mais le distribuer, c'est ce que l'on fait, en fait. Donc voilà, on est très loin, en fait, d'atteindre 10%. Pourquoi je dis 10%? Eh bien, si on faisait 10% en électrique photovoltaïque et en électrique éolien, et on a les chiffres, c'est à l'échelle de département, les surfaces, c'est à peu près ce qui pourrait compenser l'hypothèse d'une diminution du nucléaire de 75 à 50%. Voilà, c'est juste pour situer l'ordre de grandeur. Hein. Et dire que c'est peut-être pas si facile que ça à réaliser, sans parler des coûts, parce qu'il va falloir les construire. Et il faut me garantir que je ne vais pas le payer plus cher, mon kilowattheure. Hein. Ah, attention, moi je signe, mais je ne veux pas le payer plus cher. Hein. Et vous savez bien tous qu'il faudra le payer plus cher. Voilà, et j'ai également fait observer qu'on était bien en dessous de ce qui se fait en Allemagne ou de ce qui se fait au monde, en fait, hein, sur les deux, sur le photovoltaïque et puis sur l'éolien. Quel déploiement en France? Voilà, j'ai conclu. Je veux, sur le plan technique, dire, eh bien, l'essentiel du photovoltaïque, vous le savez, c'est du silicium, qu'il soit monocristallin, qu'il soit multicristallin. C'est la filière industrielle, en fait, celle qui marche. Elle a cependant un petit problème, c'est qu'il y en a tellement, c'est une envolée exponentielle en tous les cas. On fabrique, on essaie de fabriquer en France ou en Europe, il y a un problème d'obtention du silicium. Il faut du silicium, donc on a, sur le plan de la recherche, mené des travaux et on essaye encore de mener des travaux pour produire du silicium solaire, pas électronique. Il n'a pas besoin d'avoir la qualité du silicium électronique à moindre coût et en quantité suffisante. Après, je parlerai des couches minces. De l'organique, qui pour moi est aussi une couche mince, des progrès attendus du côté de la physique, il y a des physiciens ici, il y en a peut-être même qui travaillent là-dessus, hein, et puis du photovoltaïque concentré. Alors, avoir quelques idées, voilà, le silicium, c'est ça, c'est actuellement, au début, c'était 350 microns d'épée, là, c'est 150, l'ordre de grandeur. Alors, c'est de la matière, et c'est de la matière qui coûte. Donc on ne peut pas se permettre de perdre de la matière. On scie tout simplement, et l'épaisseur du trait de scie, c'est ce qui va rester en épaisseur de cellules. Voilà, donc il faut économiser le silicium qui a coûté cher en énergie et puis en coût, bien entendu, en euros, pour être produit. Alors, les films minces, gros intérêt, c'est le micron, quelques microns. Voilà ici du silicium amorphe, ou bien les cellules CIGS. CIGS, c'est cuivre, indium, gallium, sélénium. On a en France un bon laboratoire à Paris qui est associé à EDF et qui produit des cellules dites CIGS, cuivre, indium, gallium et sélénium. Et puis, ça, c'est ce qui se fait en standard. Mais on a, pour augmenter les rendements, combiné des cellules de façon à ce que, vous savez que ce sont des jonctions, en fait, des diodes, et chacune tape dans la bonne région du spectre solaire pour ne pas laisser à côté, de côté, je dirais, de l'énergie que le soleil nous apporte et qu'on ne peut pas transformer dans les cellules photovoltaïques. Elles ont une sélectivité spectrale. Alors, si on en met plusieurs, je vais y revenir tout à l'heure, on peut augmenter les rendements. Alors, quelques enjeux. Silicium cristallin, l'approvisionnement. Il s'agit de mener la purification du silicium. Et c'est un travail qui se fait à Grenoble, un de nos laboratoires CNRS à Grenoble, et qui, à l'heure actuelle, a donné lieu à une implantation d'un pilote au CEA, en fait. C'est un travail CNRS repris par le CEA, pour fabriquer en grande quantité du silicium de qualité solaire. Les progrès en termes de rendement. La nanostructuration, alors là, je ne vais pas entrer dans le détail, j'en ai pas le temps, je ne suis pas spécialiste, mais l'idée, c'est par des techniques qui consistent à ajouter des constituants dans le matériau à toute petite échelle, permettre soit de prendre un photon de grande longueur d'onde, donc de trop petite énergie pour être absorbé par le silicium, et de transformer de tels photons en un photon qui va aller pile poil dans la zone verte ici, qui est celle où le silicium peut absorber et travailler et faire des électrons. Ou bien à l'inverse, on peut, si on a un photon trop énergétique, eh bien, le couper en deux, de façon à ce que ces deux photons tapent dans la zone où le silicium peut fabriquer des électrons. Voilà, ça c'est la physique, une très bonne physique de base qui permet d'envisager d'augmenter, peut-être pas doubler, mais en tous les cas d'augmenter sérieusement le rendement des cellules. Je terminerai par le photovoltaïque concentré. Alors voilà, les voilà les cellules multiples. Voilà ici, le spectre solaire, alors en ordonnée ce sont les longueurs d'onde. En abscisse ici, c'est l'énergie qui est contenue. On retrouve le spectre du soleil en bleu, qui ressemble à un spectre de col noir à 5800 Kelvin. Et si je mets côte à côte des cellules d'indure de gallium, d'asga ou de germanium, qui chacune sont capables d'absorber dans des zones différentes du spectre solaire, celle du bas, elle absorbe dans cette zone. En rouge, celle du milieu, la zone orangée, celle du dessus en zone en bleu. Et puis, si le soleil arrive par le dessus, eh bien, il est absorbé, mais le reste passe. Donc, il y a des conditions, évidemment, pour qu'on arrive à pouvoir cumuler les sélectivités spectrales des cellules. Alors, vous imaginez là qu'on va tripler les rendements. On va, à ce moment-là, passer à quelque chose qui peut atteindre. Actuellement, on a réussi 40%, alors que les cellules hautes. Au silicium ordinaire, les cellules industrielles, celles que vous avez sur le toit, c'est du 15% sur le toit. C'est quelque chose qui suppose qu'on sache réaliser les empilements. C'est cher, c'est coûteux, et pour ça, eh bien, on va concentrer le soleil, de façon à ce qu'on amène le maximum d'énergie à la conversion sur ces dispositifs qui sont extrêmement efficaces. Ces courbes-là sont intéressantes, c'est l'évolution du prix en fonction des années. Voilà, le 2010, on est là, nous. C'est ce qui est le cristal de silicium, en coût c'était en dollars, c'est les films minces, donc ils sont un peu plus porteurs pour la zone que l'on est en train de vivre, et c'est ici en marron la concentration photovoltaïque. L'un des intérêts, elle a été étudiée en particulier par les Australiens, c'est au-delà de ce qu'on monte les rendements à 40%, c'est un potentiel de déploiement industriel intéressant au plan du coût et du prix de revient. Ça, et je termine avant la conclusion par cette planche, je pense, c'est une idée que je veux exprimer qui est générale. Regardez ici les gains obtenus en 15 ans. Alors, c'est les gains, je n'ai pas chiffré en euros, c'est les gains en énergie. Pour faire du silicium, eh bien, il faut le porter entre 1500 et 2000 degrés. C'est de l'énergie. Et puis, tous les procédés, que ce soit l'extraction, la réduction de la silice à partir du carbone qui coûte en énergie parce qu'on monte à 1500 degrés, fabriquer du silicium de qualité solaire, fabriquer la plaquette, la cellule, l'intérêt sur le module. Chacune de ces opérations coûte en énergie. Regardez, en orange, c'était en 92. Les kilowattheures. Voilà 10 000 ici. Et en bleu, c'est 2009, c'est-à-dire 15 ans après. Je veux faire observer qu'il ne faut pas, il ne fallait pas en 92 condamner le photovoltaïque sous prétexte à cette époque-là que l'analyse des coûts montrait que c'était irréaliste. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? Il fallait 15 ans en 1992 pour prétendre récupérer autant d'énergie par la production de courant électrique de la cellule que ce qu'on avait consommé pour la mettre en place. Aujourd'hui, c'est 3 ans. C'est beaucoup plus modeste. Donc, je voudrais laisser ce message. Les progrès scientifiques et technologiques sont à mesurer à l'aune de ce que sont les prix de revient, c'est ici l'analyse en énergie, on pourrait le voir également en matière, on pourrait le voir également en termes de coûts tels que vous l'achetez quand c'est sur le marché. Donc on agit sur les procédés pour ça. Guise de conclusion. Eh bien, le premier élément, donc la première partie de cet exposé, l'urgence, on va griller. Je ne suis pas le premier à le dire, mais... Pour résoudre ces problèmes majeurs de la crise environnementale, la machine s'emballe. On a l'impression que malgré les grandes conférences internationales, aucune mesure sérieuse n'est prise par les gouvernants, qui ont certes à se battre avec d'autres types de crises à l'heure actuelle. S'ajoute la raréfaction, rapide, même s'il y a les gaz de schiste, etc. Quelques clés ont été identifiées. Voilà ce que je vous propose de retenir. Les voilà les clés. Améliorer l'efficacité énergétique. 50% de notre effort sur l'efficacité énergétique. J'en ai pas parlé aujourd'hui, très peu. Développer les énergies renouvelables, on en est convaincu. Mais attention, agir sur le CO2. Parce que quelques décennies encore vont nous voir avec des fossiles qu'on va continuer. Il faut absolument. C'est à mes yeux une des priorités. C'est à mes yeux la priorité numéro un. Sur laquelle on ne fait pas grand-chose, sauf peut-être faire développer et encourager les laboratoires à aller sur les techniques de capture, de transport et de séquestration du CO2, voire peut-être des techniques de valorisation du CO2, au lieu de le mettre sous nos pieds. Je dis développer un nucléaire maîtrisé, je ne veux pas me lancer dans le débat nucléaire. Non, je traduis en fait ce qui sort des analyses de l'Agence internationale. Alors, sur les énergies renouvelables, même si le réservoir paraît gigantesque, on l'a vu tout à l'heure, on a de quoi piocher pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années. Non, en matière d'électricité issue des éoliennes, il n'y a pas de solution miracle. Et la production d'énergie électrique ne peut pas venir de simplement des énergies renouvelables. On a noté le problème majeur de l'intermittence. Il faut des travaux. Mais on sent venir des perspectives avec, tenez, on a un labo en Corse, le laboratoire CNRS de Corse, que tu connais, Jean-Luc, travaille sur le stockage avec hydrogène. Ça veut dire électrolyse, on sort du photovoltaïque, on électrolyse. L'hydrogène est dans des gros réservoirs. Et quand on a besoin de courant électrique en retour, la nuit par exemple, cet hydrogène est utilisé sur une pile à combustible et produit du courant. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'abord de savoir quelle est l'efficacité de la chaîne. Chaque fois qu'on met un dispositif sur la chaîne, on perd en rendement. Mais il faut aussi admettre que cette énergie, qui était d'une certaine mesure une énergie fatale, sert quand même quelque part si on arrive à la canaliser en la déportant dans le temps pour l'utiliser quand on a véritablement besoin. J'ai marqué l'accent sur les matériaux. Pensez-y. Dans toute nouvelle technologie de l'énergie, c'est une clé, en fait. Les terres rares, la nanostructuration, ces nouvelles cellules du photovoltaïque concentré. Et puis, alors, ce n'est pas pour faire plaisir à mes collègues de sciences humaines qui sont là, mais véritablement, hein, on ne pourra pas réussir si derrière ça, on ne s'allie pas tous ensemble, et dans une programmation sur l'énergie, on l'a fait, et ça continue d'être fait, avec des spécialistes des sciences humaines et sociales. Alors, on a parlé de l'acceptabilité, comment étudier les surfaces occupées, l'altération du paysage, quels sont les obstacles, en fait, aux diffusions des nouvelles technologies. Je ne parlerai pas de l'éducation, bien entendu, mais on avait un juriste hier, bien sûr qu'on a besoin de juristes. L'Espagne mettait une juridiction qui, sur le solaire, obligeait toute construction nouvelle à avoir une production d'énergie solaire. Hein. Après, eh bien, jouer sur réglementation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter à réglementer? Il faut donner des subventions. Où est l'optimum, en fait? Il faut des économistes, bien entendu. Les sociologues sont convoqués pour étudier nos modes de consommation, pour réduire la demande. Et puis, je pense aussi qu'il est important de faire en sorte que les personnes qui vont travailler à l'échelle internationale dans les négociations, Copenhague, Cancun, etc., s'imbibe bien de ce que sont les potentialités de la recherche et de la technologie pour prendre et conseiller finalement les décisions. Alors, je crois en avoir fini ici. Hein, je reste à votre disposition pour discuter un petit peu. Merci, monsieur.
Merci, monsieur Saulnier, pour cet exposé. Alors, en vous entendant et surtout face à non seulement l'importance des enjeux que vous évoquiez, mais également l'urgence des enjeux, j'avais une question qui est peut-être un petit peu générale et vous avez donné des éléments de réponse. Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, vous avez évoqué le contexte de crise, etc., en France, en tout cas, la volonté politique actuelle ou les moyens donnés à la recherche, vous avez bien montré combien les potentialités offertes par la recherche étaient essentielles. Est-ce que vous pensez donc que le contexte actuel, politique, économique, permettait de répondre à l'urgence des enjeux que vous évoquiez ? La question de l'acceptabilité également des populations, est-ce qu'on travaille assez cette question-là ? Vous avez évoqué le syndrome NIMBY, hein, Not in My Backyard, qui a bien été décrit par les sociologues américains il y a assez longtemps maintenant. Est-ce que vous pensez qu'on se donne vraiment le moyen à la fois technique et politique et par rapport à l'acceptabilité des populations ?
Je prends une question délicate. Hein. Bon, mais il faut dire les choses. Honnêtement, on a tous vécu, et puis j'ai vécu, hein, puisque j'étais au programme énergie, avec 2 millions par an. Hein. Bon, 2 millions par an, on avait 250 personnes, quoi, grosso modo. C'est pas beaucoup, mais il faut bien savoir que dans les labos, on a aussi toutes les autres dotations de base qui arrivaient déjà, que c'est à combiner avec les aides des régions, le FEDER, etc. Alors, bon, je dirais que c'était pas cher payé pour les résultats qu'on a pu produire et les brevets qui s'en sont suivis, car le programme énergie du CNRS a débouché véritablement sur des brevets. Hein, et on a créé des sociétés, et on a créé des joint ventures avec EDF, avec Total, dans le photovoltaïque en particulier. Hein. Je vais donner quelques chiffres sur le photovoltaïque. Oui, on a été bien doté à l'époque, il y avait aussi l'ANR. Hein. L'ANR, c'était pas en millions, c'était des dizaines de millions. Hein. Mais c'est aussi les laboratoires. Donc, la vie de l'ANR depuis 2005 a été en s'amplifiant, en fait, a donné beaucoup à deux secteurs clés, qui sont l'hydrogène et le photovoltaïque. Elle a mobilisé, elle a bien aidé les communautés françaises concernées. Et on a beaucoup moins travaillé, malgré l'attention qu'on avait pu attirer là-dessus, à l'ANR en tous les cas, sur l'efficacité énergétique, qui pourtant est une des pistes importantes. Mais pour répondre à ta première question, bon, il y a eu effectivement des dotations importantes par l'ANR. Bon. À l'heure actuelle, il y a une phase de flottement. Il y a une phase de flottement. Et pour dire un peu le ressenti, on a sur les travaux de recherche sur l'énergie à l'heure actuelle l'impression qu'on a peut-être une absence de vision, en fait. Alors, je ne veux pas condamner ni le CNRS ni l'ANR, mais global. Bon, il est urgent, voilà, je vais dire la chose différemment, il est urgent qu'il y ait une vision qui permet de renouveler l'effort de la recherche sur ces domaines de l'énergie. Coordonner ces efforts. Et pas simplement au CEA. Pas simplement au CEA. Pas simplement à l'IFP, hein, qui sont les grands spécialistes, en fait, de ces problèmes d'énergie. On a tout un potentiel dans nos universités et au CNRS qui a fait ses preuves et qu'il faut soutenir et encourager plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà, je répondrai à ta question.
Oui, Jean-Bernard, j'avais une question. Tu as fait des comparaisons entre nucléaire et puis les énergies renouvelables, enfin des énergies renouvelables en chiffrant ça en coût, en puissance et en superficie au sol occupée. Mais tout ça, ça reste dans un système très centralisé de production d'énergie. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur des systèmes décentralisés ?
On peut dire plusieurs commentaires sur les systèmes décentralisés. Je vais commencer par un qui est tout récent. On vient de me faire une offre pour mettre 30 mètres carrés de photovoltaïque sur le toit. Il faut que je mette 30 000 euros et j'aurai amorti ça. Je commencerai à toucher un retour dans 20 ans. Bon, lui, c'est du foutage de gueule. Voilà, hein, voilà une façon de dire les choses. On n'a pas, on ne contrôle pas, en France, en tous les cas, la politique d'incitation aux énergies décentralisées. Hein. Alors, deuxième aspect, hein, énergie décentralisée, attention, on va mettre ça sur le réseau. Or, le réseau, EDF, a été conçu à une période où c'était du one-way, hein, bon, ou du moins c'était bouclé, légèrement bouclé. Mais est-ce que notre réseau est capable de supporter des points d'injection qui vont se voir d'un seul coup arriver ou partir en fait des productions supplémentaires? Dans quel sens? Quelle qualité? Alors attention, la qualité de l'énergie qu'on injecte dans le réseau. Ça veut dire être sûr des fréquences, ça veut dire être sûr de ce qu'on ne va pas induire sur le réseau déjà lui-même, des instabilités. Alors, on a des laboratoires qui ont travaillé là-dessus. Hein, on a de bons labos de génie électrique à Grenoble, à Toulouse, entre autres, pour citer ceux-là. Mais l'un des dangers de la décentralisation en termes d'injection sur le réseau, c'est qualité du courant et risque de déstabilisation du réseau, c'est-à-dire du blackout, tout simplement. Hein. C'est quelque chose qui se propage très vite, en fait. Hein. Donc, notre réseau n'est sans doute pas fait aujourd'hui pour cela. Par contre, autre élément de réponse, eh bien, on a les smart grids. Avec dans les smart grids, l'idée d'îloter, l'idée de faire des sous-réseaux plus faciles à gérer. S'il y a une panne, eh bien, c'est un petit secteur simplement sur lequel on va travailler. Donc, la vision, en fait, à l'égard des problèmes posés par le caractère décentralisé a évolué en disant on était catastrophé, il n'en faut pas. Non, c'est pas ça. La science doit réfléchir et tâcher d'apporter des éléments de réponse. Eh bien, à travers ce que je dis là, l'îlotage, les smart grids, on voit arriver des pistes qui permettent d'envisager de façon différente l'injection d'énergie délocalisée, en fait.
Bonjour. D'abord, merci pour cet exposé qui m'a rappelé de vieux souvenirs de l'ANSMA. Alors moi, je suis doctorant en troisième année en mécanique des fluides et j'ai eu une petite discussion il y a un an avec un ami qui travaille à EDF. Il me parlait des éoliennes, et notamment des éoliennes de première génération. Il me parlait d'un problème que je ne soupçonnais pas. Alors l'Allemagne, ils sont en avance sur nous par rapport à l'éolien. Ils commencent à démanteler leurs premières éoliennes, les plus vieilles. Et ce qu'il me disait, c'est que l'énergie nécessaire pour reconditionner les premières éoliennes étaient égales ou supérieures à ce qu'elle avait produit toute sa vie. Donc, alors je ne sais pas s'il a peut-être parlé un peu vite ou si c'est... Et du coup, j'aimerais savoir qu'en est-il de ceci. Ouais.
Attendez, j'arrive si vous voulez répondre.
On va laisser répondre, si tu as une idée. Puis je commenterai après.
Ouais, non, en fait, moi j'ai fait 2 ans au Danemark, j'ai fait un master en énergie renouvelable et j'ai travaillé dans l'éolien pendant 6 mois pour un stage après. Et en fait, donc le discours là-bas est un peu différent ici, hein, sur l'éolien, ils sont beaucoup plus... eux, ils ont 20% de leur électricité qui est produite par éolienne et 80% charbon. Donc, bon. En fait, eux, là, ce qu'ils disent, c'est que... Donc eux, ils sont vachement dans tout ce qui est analyse de cycle de vie. Et donc essayer de déterminer l'impact d'une technologie de sa naissance à sa mort, en fait, hein, ou à son recyclage. Et les chiffres annoncés maintenant pour les éoliennes qui sortent à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, elle va consommer 3 années de ce qu'elle produit sur toute son année, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sur toute son année, donc c'est 25 ans, en fait. Hein, une éolienne, ça meurt au bout de 25 ans, on décide de l'enlever, en général. Et en fait, sur ces 25 années de production, il y a 3 années de production qui sont utilisées pour la construction, pour le démantèlement, pour le déplacement, etc. Donc peut-être les premières éoliennes, c'est vrai. Hein, peut-être les toutes petites de quelques kilowatts, c'est vrai, j'en sais rien. Mais les nouvelles, a priori, c'est... Voilà. Bah, c'est possible.
Je ne suis pas EDF ou chez un fabricant d'éoliennes, ça se saurait sinon. L'idée que je m'en fais à travers ce que j'ai pu apprendre ou lire là-dessus. Les premières, oui. Tu as vu tout à l'heure, quand j'ai regardé le photovoltaïque, c'était dramatique, dire qu'il faut 15 ans pour récupérer... C'était les premières. C'était les balbutiements. Donc, il n'est pas impossible que sur les premières générations, on ait effectivement des soucis. Ce que j'ai de tête, hein, on en parlait la semaine dernière à la thèse d'Aurélien Bertin à Paris, une éolienne Vernier, il est aux Caraïbes, hein, 1 méga,
un méga, elle fait, je cite de mémoire, 90 mètres de haut, quoi, deux pales. Hein. C'est quelque chose qui, du point de vue de l'énergie pour la fabriquer, conduit à un temps de retour à l'échelle de l'année. À l'échelle de l'année. L'énergie dont j'ai eu besoin pour la fabriquer, c'est ce qu'elle va me produire sur à peu près un an. Ce n'est pas 15 ans, c'est moins de 3 ans. Hein. Mais je ne parle que de celle-là. Hein. Elle est récente. Elle est récente. Il faut savoir aussi, au point de vue démantèlement, il y a un bout de temps que je me bagarre, parce que les démantèlements, on n'a jamais les chiffres, et pour cause. Hein. Ce que j'ai trouvé comme ordre de grandeur sur l'éolien, c'est le tiers du prix de l'installation de l'éolienne. Ça veut dire qu'une 3 mégas coûte 3 millions, hein, 3 mégas, 3 millions, et il faut 900, on va dire 1 million, pour le démantèlement, sans enlever le bloc de béton. Alors, l'éolienne Vernier dont je parle, elle a 100 mètres cubes de béton, donc ça fait 200 tonnes, plus de l'acier. Plus de l'acier. Hein. Si on veut l'enlever, eh bien, il faut faire venir quelqu'un, il faut casser tout ça, etc. Donc, en gros, une éolienne, 1 méga, 1 million, et il faudra mettre quelque chose qui est de l'ordre de 30%. Mais c'est une information que je vous soumets, vous la recouperez, en fait. Hein.
Oui, bonjour. Alors, désolé d'avance, je vais revenir un peu sur le champ des sciences humaines plutôt que vous avez évoqué. Non, c'était pour introduire. C'était juste pour introduire. D'accord. C'était juste pour introduire. Pas de souci. Donc vous avez parlé de l'importance de la sociologie, de l'économie. Je rajouterais, mais sans doute que vous êtes d'accord avec moi, de l'importance de la philosophie politique. Je suis docteur en philosophie politique, en fait, donc je prêche un peu ma paroisse. Et je travaille sur la justice entre les générations, précisément. Et justement, il y a une question que vous avez évoquée à travers la question de la répartition des efforts à produire sur le territoire national pour aller vers le sens de la transition énergétique, sur l'impact sur le territoire, etc. Et donc la question, elle se pose également au niveau intergénérationnel, c'est-à-dire comment répartir les efforts entre les générations ? Est-ce que, au-delà de l'objectif qui est donc de la transition énergétique, de ce que nous devons gérer à son futur de manière générale, donc un climat, disons, plus favorable, un environnement plus favorable, donc il y a cette question aussi de la répartition des efforts. Et je voudrais savoir si ce point-là, il est, comment est-ce qu'il est amené dans les réflexions que vous avez par ailleurs, et si on se pose cette question-là, et donc peut-être que c'est aussi une réponse possible au manque d'engagement qu'on peut avoir dans cette transition énergétique aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que les efforts que ça amène sont trop élevés, pardon, je veux dire. Donc comment est-ce qu'on réfléchit à ces éléments-là, et comment est-ce qu'on peut essayer de répartir les efforts donc pour la transition énergétique de génération en génération?
Bon, je suis d'abord d'accord avec Anne Bonnefoy, il ne faut pas s'excuser, hein, c'est bienvenu, et puis, même si je ne sais pas bien répondre à ta question, mais je vais dire quand même des éléments. Qui a présenté, je crois que c'est Patrick qui a présenté l'écologie hier matin, en fait, hein, et l'une des planches était, eh bien, je réfléchis à ce que sera l'impact de ce que je décide aujourd'hui sur les générations futures, autrement dit, j'ai quelque part... quand on parle écologie, quand on a un regard sur l'environnement à travers la grille de l'écologie, on a évidemment, je pense, hein, mais tu peux m'aider certainement là-dessus, on a un regard intergénérationnel. Alors c'est le même regard d'ailleurs que je pourrais dire que celui que je porte sur ma retraite. Hein. Bon, dites les gars, j'ai cotisé, hein, donc c'est bien à vous de venir continuer là. Eh bien, pour mon énergie, je dirais que il y a certainement, comme tu le dis, de la philosophie politique. Mais je crois qu'il faut aussi le faire passer dans la formation, dans l'éducation et dans nos écoles primaires et dans nos lycées. Dans nos écoles primaires et lycées. C'est presque qu'on fait aborder le problème de morale tout à l'heure, qui me plaisait beaucoup, en fait, cette vision-là. C'est un problème de morale politique, mais de morale tout court, en fait. C'est-à-dire, on n'a pas à piller la planète et laisser les crever de faim les gens de la Corne de l'Afrique, parce que ça ne m'intéresse pas et qu'ils sont loin. Bon. On n'a pas à piller les ressources en Lantanide en disant tant pis pour les autres, mes enfants, mes petits-enfants. et les enfants et petits-enfants de mes amis et de tous ceux qui sont là sur la plaine. C'est une question de comportement citoyen, probablement. Hein. Mais je n'ai pas répondu à ta question, c'est-à-dire comment, dans le cadre d'un programme de recherche, est-ce qu'on peut impliquer un progrès, en tous les cas, sur cette analyse-là. Eh bien, je vais te répondre. J'ai eu beaucoup de mal, en tant que directeur du programme sur l'énergie, à mobiliser les forces de sciences humaines et sociales. Bon, je n'ai pas su vraiment. Oh, ils étaient 6% à peu près. Bon, il y a un énorme potentiel. Quand je vois, quand je discute, il y a quelqu'un du LEAD ici, hein, quand je discute au LEAD, quand je vois la réussite du LEAD, il faut savoir, le LEAD, c'est le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui est à Paris 7, hein, qui a été créé par Luc Valentin, puis avec Perossani et d'autres encore. Hein. Extrêmement interdisciplinaire. Bon, on y rencontre tous les sujets, à mon avis, une grande partie des sujets de sciences humaines et sociales qui ont trait à l'énergie, à l'environnement probablement. Bon, c'est une réussite. On soutient vivement cette création-là. Il faut savoir que ça existe. Il faut savoir qu'on a parié qu'il fallait mettre dans le même laboratoire des gens de sciences humaines et sociales, des spécialistes de biologie, de mécanique des fluides, de physique du solide, etc. Alors, on attend beaucoup, bien entendu, mais il faut savoir aussi qu'ils ont un séminaire au LEAD qui a lieu combien ? Tous les mois ? Tous les mois, le mardi après-midi. Et qu'il est ouvert. Et j'encourage vivement ceux qui peuvent y aller à prendre contact avec le LEAD pour assister à ces... C'est vraiment un brainstorming extrêmement large dans lequel, pour revenir à ta question, je pense qu'il serait intéressant de discuter cet aspect-là de philosophie politique.
Vous voulez rajouter quelque chose ? C'est votre laboratoire.
Oui, donc en fait, c'est un laboratoire qui accueille vraiment les différentes disciplines, ce que vous avez dit, mais vraiment pour ce qui est des sciences humaines, qui sont peut-être les moins attendues généralement. On a des historiens, on a des géographes hein, qui sont intéressants parce qu'ils font pas mal d'interfaces, les géographes, via les SIG, etc. Des sociologues, bien sûr. On aimerait avoir plus d'économistes, ça va venir. On est vraiment très ouvert. Et il y a des biologistes, il y a des chimistes qui travaillent sur les champignons, sur les algues. Donc on est... si vous êtes intéressé, on peut en parler peut-être autour du déjeuner. Voilà, c'est le... Il y a un site internet. Alors, c'est en développement. On aimerait que ça devienne une UMR en 2014. Donc, c'est vraiment un nouveau projet qui a en plus aussi tout un réseau international. On a LIED, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Le site, vous tapez LEAD et je crois que vous tombez dessus en premier ou en deuxième peut-être. Ou sur Schubert avant. Voilà.
D'où l'intérêt des journées comme celle-ci, justement, de réunir toutes les disciplines.
Bonjour, merci pour votre présentation. Donc là, je vois, vous mettez bien l'accent sur l'urgence, et on a parlé donc de la France, de l'Allemagne, du Danemark. Moi, ce qui m'inquiète, bon, je n'ai pas les infos, mais les pays émergents comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, qui se développent et qui, du coup, utilisent beaucoup d'énergie polluante, j'ai l'impression que nous, même si on a la meilleure volonté du monde et qu'on fait tout ça, est-ce qu'eux, ils vont le faire assez vite pour contrer cette urgence, en fait ?
Ils ne vont pas le faire tout seuls, probablement. Alors, je voudrais répondre en me référant au protocole de Kyoto. Hein. C'est un cadre. Bon, et peut-être que quelqu'un peut m'aider, hein, qui est mieux spécialiste que moi là-dessus. C'est un cadre dans lequel les grandes nations industrialisées, et puis les autres, en fait, se sont assemblées pour tenter de trouver un programme justement pour mettre un frein à cette dégradation de l'environnement. Alors, il y a plusieurs catégories de pays. Il y a ceux qui ont de l'argent, en fait, pour faire simple, et puis il y a les autres. Et ceux qui ont de l'argent sont censés aider aux autres, en fait. Ils sont censés aider aux autres avec des fonds, mais je crois qu'il faut aussi dire censés aider aux autres avec leurs connaissances et leurs compétences, leurs moyens d'analyse. Alors, je prends un exemple, hein. La Chine pollue beaucoup. Bon, vous regardez dans tous les rapports de l'agence internationale, elle est en tête. Hein, et la Chine utilise du charbon. Mais dites-moi, vous seriez à leur place, vous auriez ça sous vos pieds, vous feriez pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aider la Chine à faire de la combustion propre. Aider la Chine à faire de la combustion propre. C'est-à-dire amener d'une certaine façon, et dans le cadre d'accords internationaux, le savoir-faire qui existe dans les pays qui ont déjà les technologies, de combustion propre pour qu'on freine les émissions des Chinois. Alors, attention, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut en échange ? C'est du donnant-donnant, c'est l'art de la négociation. Ce n'est pas mon métier, la négociation. C'est pour ça que j'ai dit, les gens qui font la négociation internationale, il faut qu'ils viennent avec nous. Il faut qu'ensemble, l'idée forte, quand on dit, attention, on ne dit pas la pluridisciplinarité. Au LEAD, on dit l'interdisciplinarité, qui est autre chose. C'est faire naître un creuset de culture commune, en fait. Partager, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le LEAD, il lui faudra du temps pour y arriver. Mais... mettre des sociologues, mettre des spécialistes des négociations internationales dans le creuset des scientifiques, des sciences, alors pardonnez-moi, on les appelle durs, je ne vais pas vous mettre en colère à cause de ça, hein, des sciences dures, c'est en fait un défi. Il faut absolument qu'on immerge les deux types de cultures et qu'on les fasse se croiser. Il faut une ambition encore au-delà, c'est faire naître des nouvelles disciplines, faire naître des nouvelles cultures. Et je reviens à la Chine. Bon, la Chine, l'Inde, ma réponse est là, c'est ces pays qui ne sont pas engagés dans le protocole de Kyoto à financer, c'est effectivement les aider. Sinon, à quoi ça sert ? Sinon, à quoi ça sert ? Alors, le drame, vous avez tous suivi l'évolution depuis Copenhague. Qu'est-ce qu'on a eu ? Cancun, Durban, et puis Rio plus 20, ça piétine. Le Canada est sorti de Kyoto. Le Canada est sorti. Alors, à quoi cela rime-t-il ? C'est là où tout à l'heure je disais, les pays, les nations ont d'autres préoccupations. Les Américains n'ont jamais signé, les Russes sont dans une situation où... Alors, l'Europe, si je peux donner une réponse, eh bien l'Europe, effectivement. C'est l'Europe qui doit avoir un rôle de leader, hein, dans le cadre du protocole de Kyoto et chercher les alliances nécessaires.
Je peux... Ouais. Non, juste pour rebondir là-dessus... Je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que, enfin, comment t'as dit ça ? Que ouais, ça sert à rien de rien faire parce que de toute façon, les Chinois, les Indiens, ils vont. Non mais enfin, ouais, voilà, on a l'impression que ça sert à rien. Mais en fait, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, si tu regardes l'empreinte écologique qu'a un Français ou un Américain, c'est peut-être, alors je dis des conneries, mais c'est peut-être 4-5 fois celui d'un Chinois ou 4-5 fois celui d'un Indien. C'est peut-être même plus, hein, puis ça change parce que bon, ils développent aussi. Mais et donc du coup, et puis même si tu regardes en valeur absolue,
ce qui est en cause, c'est effectivement aussi la croissance ou pas.
Ah oui, bah, ils continuent de croître. Oui. Oui. Et puis du coup, moi, je pense que l'effort est vraiment à faire. Enfin, c'est nous qui devons faire l'effort, hein, d'une certaine façon, puisque, enfin, quand on revient juste aux émissions de CO2, on voyait que les États-Unis c'était comparable à la Chine, en fait. Mais les États-Unis c'est 300 millions de personnes, les Chinois c'est 1,3 milliard. Et donc, c'est là où on se dit, bon, il y a quand même, faut. Enfin, c'est plutôt, on va pas leur exiger de faire des choses dans ce domaine-là. C'est voilà. Est-ce qu'ils vont suivre ? J'en sais rien. Et puis bon. Enfin, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était pas forcément parler de ça. Hein. C'était plutôt de parler d'un truc dont on n'a pas parlé pour le moment, depuis le début de ces conférences, c'était le changement de mode de vie. Parce que là, on parle beaucoup de technologie pour réduire notre impact environnemental. Hein, mais enfin, moi, de mon point de vue, moi, je reste convaincu qu'en fait, on n'évitera pas un effondrement au sens de Dennis Meadows, par exemple, dans Halte à la croissance, ou de Jared Diamonds, c'est quelqu'un d'autre qui a fait du travail là-dessus, si on ne change pas de mode de vie. Quoi. Et moi, ça me fait halluciner quand je parle de vélo tout à l'heure et que les gens se braquent un peu. Et moi, je me dis... pas forcément, non, mais... Je me dis, si déjà, on ne fait pas le pas juste par rapport à un truc con qui est le vélo, quoi... Enfin, moi, je suis assez pessimiste, entre guillemets, quand... à notre réponse.
Une autre question, je disais qu'il n'y a aucune demoiselle qui l'a posé une question depuis hier. Qu'est-ce que c'est que cette école doctorale genrée, hein ? Les garçons, les filles, vous êtes mélangés, il n'y a que des garçons qui posent des questions. Alors là, ça serait bien qu'il y ait une fille qui prenne la parole, parce que là... Non, allez-y. Ah, vous voulez répondre, vous voyez ? Ah, vous êtes deux à vouloir parler, il n'y a que des garçons.
Je voulais répondre à ta question sur un exemple simple. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, les Chinois mettent beaucoup d'argent dans la voiture électrique. Si nous, on ne le fait pas, dans 20 ans, quand il n'y aura plus de pétrole, on achètera des voitures aux Chinois. Alors que si nous, on développe les technologies, on aura la connaissance nécessaire. c'est toujours une solution d'avoir le moyen technique de remplacer ça. Parce qu'aujourd'hui, même les Chinois commencent à se plaindre de leur atmosphère qui est invivable. Donc ils vont y arriver de toute façon. Et si on a des technologies à leur proposer, c'est bon pour nous. S'ils les développent eux-mêmes, on leur achètera après.
Donc moi en fait, je voudrais un peu, on a beaucoup parlé du réchauffement climatique et du fait justement, là, ce que vous disiez juste avant, que bon, les politiques s'y intéressent mais ne prennent pas de décision. Et moi je vois deux autres aspects, c'est comme on parlait justement des Chinois, c'est que les Chinois commencent à être confrontés à un vrai problème sanitaire dans beaucoup de villes, à savoir enfin, ce qu'ils appellent les villes cancer, qui sont à peu près, il y en a à peu près 400, qui sont des villes où les gens commencent à être réellement empoisonnés tellement le seuil de pollution est élevé. Et donc il y a cet aspect-là sanitaire, et puis un autre aspect qui est plutôt économique, c'est l'apparition de catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique qui a des impacts économiques lourds, notamment pour les assureurs. Et dans quelle mesure ces deux problèmes ne peuvent pas être un vecteur plus important que montrer le réchauffement climatique en soi ? Que pointer le réchauffement climatique, au final, n'a pas de conséquences perceptibles tout de suite, mais le problème sanitaire et le problème... Des catastrophes naturelles ont des impacts directs qui peuvent faire pression sur les politiques. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à la question. Quoi.
Si, moi je crois que c'est une bonne remarque, une bonne observation. J'ai élagué mon exposé pour essayer de tenir. J'avais une planche sur les aspects sanitaires, en fait, effectivement. Ça peut-être plus prendre à la tripe. Hein, les aspects sanitaires, le cancer qui se développe, l'environnement, etc. Je crois qu'il faut pas hésiter, il faut le mettre en forme, il faut savoir le vendre, entre guillemets. Hein. Mais peut-être tout ce qui peut aider, tout ce qui peut aider auprès des politiques est utile. Alors, un dernier message, hein, je termine là-dessus. Il faut vous adresser aux hommes politiques. Ils n'y connaissent rien. Votre député de base, il ne connaît rien. Bon, tu sais, l'un des directeurs de département SPI du CNRS disait « Vous avez mission d'expliquer aux députés de base ». Ben oui, parce que c'est lui qui vote les lois derrière. Mais il faut l'expliquer avec... avec modération, avec raison, il faut faire ça autour d'un verre de whisky ou de je ne sais quoi. Mais ils sont preneurs, d'autant plus qu'ils sont preneurs. Mais la démarche, pour revenir sur ta question, il faut savoir quoi dire, il faut le mettre en forme, mais il faut y aller. Il faut qu'on interpelle nos responsables politiques à tous les niveaux. On commence par nos collectivités territoriales, nos élus à la mairie, au conseil général, à la région, etc. Il faut leur dire... courtoisement, gentiment, et il y a des gens qui sont très prêts à le recevoir. Ils ne demandent que ça, qu'on leur apporte des éléments pour que eux, après, derrière, puissent les utiliser, les intégrer dans les débats. Hein ? Mais faciliter, comme tu le disais, à partir de ce qui touche à la santé, je crois que c'est un élément important.
En fait, moi, ma question, elle se portait plus au niveau, parce que depuis hier, on présente en fait un ensemble de démarches qui sont faites pour qu'on, au niveau de l'énergie, mais on nous parle seulement en fait de consommation. Donc, on nous dit dans tel nombre d'années, on va consommer telle quantité d'énergie. Mais moi, je voudrais savoir s'il y a une réflexion qui est faite au niveau de la régulation de la demande, parce que c'est, je voudrais savoir si on réfléchit dans ce sens aussi. Est-ce qu'on peut demander moins, parce que tout ça, c'est nous tous qui demandons cette énergie-là. Est-ce qu'on ne peut pas réguler cette demande aussi qui est de plus en plus croissante, en fait ? Je ne sais pas si...
C'est sûr, mais je n'ai pas axé l'exposé sur la demande. J'ai dû le dire une fois, hein, qu'il fallait aussi, quand on parle de l'efficacité énergétique, c'était aussi en termes de demande. Si on a des bâtiments passoires, eh bien, on restera à 44% de notre budget énergie en France pour chauffer les bâtiments, chauffer ou climatiser. Il faut que la demande, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse là-dessus. Ça veut dire aussi qu'on prenne des habitudes. Ça commence par éteindre les lampes, fermer les radiateurs, etc. Mais tu as tout à fait raison. Il y a tout un secteur important qui est à notre portée, qui est celui de la maîtrise de la demande, qui prend bien des aspects et... quelque part, je dirais qu'on peut peut-être distinguer l'efficacité en laissant ça aux technologies. On l'avait fait une fois, c'est quelqu'un qui justement avait fait un exposé au LEED. Et la sobriété qui est par l'action du comportement de chacun d'entre nous qui peut aller vers une diminution de sa propre consommation, en fait. Hein. Donc la demande, oui, c'est une clé importante et d'autant plus importante qu'elle est entre nos mains. Elle est là. Tu n'as pas besoin d'avoir des technologies développées. Dans bien des cas, c'est le comportement qu'il nous faut adopter pour réduire. Et ça nous concerne personnellement, individuellement.
Bonjour. Vous avez beaucoup parlé, on parle surtout d'énergie photovoltaïque et éolienne. Mais qu'en est-il des autres énergies? Est-ce qu'il y a des avancées en termes de rendement ou d'efficacité qui ont été faites dans la géothermie, l'énergie marémotrice ou ce genre de choses?
Alors, vous avez tout à fait raison. Et vous répondez presque. Hein. Bon, on a les énergies marines. Alors, énergie marine, il y a tout un gisement qui est bien répertorié. Et là encore, on pourrait dire on a largement de quoi nous nourrir en énergie. Cependant, les efforts sont moindres. Pourquoi ? Il faut des spécialistes et on ne les avait pas. En fait, on commence en France, en tous les cas, à avoir un certain nombre de labos. C'est Nantes, c'est Le Havre, c'est Grenoble, qui travaille sur l'exploitation des énergies marines. C'est de la mécanique des fluides, mais ça n'est pas que de la mécanique des fluides. C'est aussi du matériau en ambiance de corrosion, si on met ça en mer. Et là, on peut bénéficier du savoir-faire des pétroliers, en partie. C'est aussi de l'électronique, de la commande. Quand tout à l'heure, j'ai montré cette espèce de flotteur qui était sollicité par la houle, il y a de l'électronique sophistiquée. Il y a des générateurs qui sont des alternateurs linéaires. Et là, il y a des pistes, donc mécanique des fluides, matériaux, génie électrique. Sur la géothermie, j'ai moins recensé de pistes de progrès. Les sites sont nombreux. La France, c'est essentiellement Soultz en Alsace, géothermie profonde. Et puis, on a Bouillante à la Guadeloupe également. Là, derrière, eh bien, c'est de la turbine et on fait de la production d'électricité. Mais on peut aussi songer à chauffer. L'Islande, j'aurais dû être en atelier sur un projet européen en Islande. Hein. L'Islande elle se chauffe quasiment à partir de la géothermie. Hein. Donc la mer, la géothermie. Alors, on n'a pas parlé de... Quand je parlais de la mer, c'est les vagues, également les aspects thermiques, les différences de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes dans les zones tropicales permettent d'avoir un delta T et faire la thermodynamique, autrement dit produire de l'énergie. Alors ça, c'est vieux comme tout. Je crois que c'est Claude qui avait fait ça dans les années, je ne me souviens plus, 20 peut-être, hein, 20. Et ça a tout cassé parce qu'il y a eu des tempêtes tropicales, etc. On reprend là, sur l'exploitation de l'énergie thermique des mers, des travaux qui sont, à mon sens, plus de nature technologique que posant de véritables verrous scientifiques. Mais c'est une piste également, et on y travaille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Pour conclure, il y en a de nombreux autres, mais on juge la force d'un pays à son potentiel, certes, de recherche et de technologie, mais également à son potentiel industriel. Et une des faiblesses de la France, c'est peut-être que dans le domaine des énergies renouvelables, on a mis du temps pour avoir quelques leaders qui émergent au plan international. On a les grands champions dans le domaine des pétroliers, vous les connaissez. Sur le nucléaire, on a des grands champions. Sur l'automobile, on les a critiqués tout à l'heure, mais on a quand même des champions qu'il faut aider, il faut maintenir. Mais sur les énergies renouvelables, on n'a pas grand-chose. On ne fabrique pas d'éoliennes. On fabrique très peu de photovoltaïque. Sur les énergies des mers, ça se compte sur les doigts d'une main. EDF a fait des essais au Cap Bréhat. Hein. Mais c'est sans doute un domaine dans lequel la France a un retard. Est-ce qu'il faut résoudre cela à l'échelle de la France ? Tout à l'heure, quand je parlais de Kyoto et puis de la position de leader de l'Europe, je crois qu'il faudrait sans doute rechercher dans ces énergies renouvelables des alliances à l'échelle européenne. si les Danois sont en avance, si les Allemands sont en avance, bien peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de recréer des centres de production, mais de s'allier pour porter plus loin ces technologies grâce à la recherche.
Monsieur Flonneau, vous voulez intervenir, et ensuite la dernière question.
Oui, on parle définitivement la même langue, et le ressort in fine de la pression sur le politique, d'une pression éclairée sur le politique, paraît tout à fait essentiel. Mais je rebondirai sur la question de la régulation de la demande, qui est effectivement extrêmement problématique au regard de la mobilité généralisée mondiale. On ne s'est jamais autant déplacé, et la tendance est à une augmentation décuplée de cette mobilité. Et ce que l'on constate, c'est que la hausse du mode de vie s'accompagne, et c'est une corrélation parfaite, d'une hausse des déplacements. Les Français, à la fin du 19e siècle, avaient un rayon d'action quotidien de 5 km. Le rayon d'action est désormais de 45 km quotidien, pendulaire. Et donc je ne parle même pas des moments exceptionnels de déplacement. Et on peut se donner bonne conscience en faisant du vélo à proximité et en prenant par ailleurs le vol low cost pour aller passer des vacances absolument indispensables à Lanzarote. Donc on est là dans des logiques de consommation qui sont parfois complètement déconnectées et absurdes, tout en ayant des exigences moralisantes, encore une fois, j'ose le mot, qui sont parfois déconnectées des réalités. Et je ne connais historiquement aucune expérience sans contrainte, sans catastrophe, sans guerre, de contraction de la demande.
Bonjour, alors moi je fais ma thèse en informatique, donc dans une discipline qui est l'interaction homme-machine, qui est à la fois entre les sciences, on va dire, techniques et humaines. Et justement, je voulais savoir un peu l'impact que pouvait avoir l'informatique en tant qu'outil et aussi en tant que science, et les proportions que ça pouvait avoir apporté aux réponses qui ont été posées au long de cette formation.
Il y a plusieurs réponses. Dans bien des cas, on est dépendant d'une bonne informatique temps réel. Voilà. Hein. Donc c'est un premier aspect. Dans d'autres cas, on a besoin d'avoir des moyens puissants d'informatique pour mener des modèles. Bon, c'est pas aux mécaniciens des fluides que je vais le dire. Hein. Je vais donner un dernier exemple concret qui est celui que j'ai vu développer. Il y a des Limousins ici. Je sais plus où ils sont. Enfin, j'en ai vu hier, en tous les cas, à l'université de Limoges. Il y a un LABEX qui travaille, entre autres, sur le développement de capteurs autonomes en énergie. Capteurs autonomes en énergie, je vais vous faire peur, hein, c'est le champ de bataille, hein, c'est le fantassin. On a une bourre de capteurs, et puis il faut qu'ils les mettent, on surveille ça, etc. Mais ça peut être la surveillance des ouvrages d'art, des ponts. Hein. Ça peut être aussi dans le contexte énergie, la maison qu'on veut rendre la plus autonome possible en énergie. Pour ça, il faut qu'on optimise et qu'on prenne de l'information et de la connaissance sur le comportement de la maison. À ce moment-là, on a besoin de capteurs autonomes en énergie, de capteurs humains. Il ne faut pas que toute l'énergie qu'on va économiser parce que la maison va mieux se comporter soit consommée dans les capteurs qui vont émettre vers leur centre de collecte d'informations. Et donc, on a un problème de conception de capteurs qui consomme le moins possible et qui communique. Et là, on a besoin de bons spécialistes d'informatique et de communication. Il faut mettre du logiciel qui consommera le moins possible d'énergie en tant que tel au moment de sa mise en œuvre, au moment où il se développe. Et il faut également, et les informaticiens peuvent nous aider, savoir gérer des situations de crise où on se rend compte que tel capteur y répond pas, par exemple. Mais il faut développer de l'intelligence. Voilà. Il faut localiser quelque part une intelligence partielle dans un étage d'un bâtiment ou que sais-je, de façon à ce qu'il sache lui-même gérer sans faire appel au degré supérieur d'intelligence, c'est-à-dire le centre de contrôle, qu'il sache gérer localement la situation. Mais là, il faut du logiciel et de la prise de décision. C'est donc, pour revenir à cet exemple des capteurs intelligents et autonomes, capteurs communicants, de l'énergie la plus faible possible dans, par exemple, l'envoi d'une information. Quand j'envoie un bit d'information, hein, c'est du temps réel, là, il faut envoyer en même temps 99 bits supplémentaires pour valider l'information. vous rendez compte de l'énergie qui est consommée et donc du potentiel de récupération d'énergie au niveau du nombre de bits d'information qu'on va envoyer. Mais là, on a besoin des informaticiens. Donc, effectivement, sur ces problèmes d'énergie, il y a des enjeux importants où l'informatique est indispensable à bien des niveaux, à bien des écarts.
Bien, je crois qu'on pourrait continuer la discussion encore assez longtemps. S'il y a d'autres questions, vous, peut-être qu'au moment du repas, vous pourrez discuter avec les personnes qui sont intervenues et aussi entre vous, évidemment. Alors, le dernier mot pour le directeur de l'école doctorale qui est à l'origine de cette formation thématique. C'est la première du genre que l'on organise. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants qui sont là aujourd'hui et aussi ceux qui étaient là derrière pour la qualité de leur présentation. Mais je suis enseignant et je voudrais aussi remercier tous les doctorants pour la qualité de votre écoute, parce que j'ai rarement eu dans mes enseignements autant de silence. Et c'est pas un silence passif, puisque j'ai vu qu'à la fin des interventions, vous aviez des questions pertinentes à poser. Et d'ailleurs, je me dis que évidemment, on va refaire cette formation thématique, peut-être pas l'an prochain, parce que aussi que les nouveaux doctorants arrivent, mais en tout cas dans 2 ans, c'est sûr. Et j'y réfléchissais un petit peu comme ça. Peut-être qu'on va le faire sur 2 jours au lieu d'une journée et demie et qu'on va réserver des temps un peu plus longs à la discussion, sachant que je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une journée peut-être d'exposé sur l'ensemble du domaine pour que tout le monde soit... Bon, s'informe un petit peu de ce qui se passe et puisse poser des questions. Et une demi-journée à la fin, ou une demi-demi-journée, un quart de journée, où tout le monde ayant eu l'information, on pourrait générer des discussions un peu plus longues, parce que je sens que là, on pouvait encore discuter plus longtemps. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Je crois qu'il faut qu'on aille manger. On est un petit peu en retard. Pour ceux qui partent, qui prennent le bus, pardon, pour retourner à Descartes, c'est à 14h15. Hein, donc soyez précis. Bon, hein, il n'attendra pas plus que ça. Et pour ceux qui sont de l'extérieur, qui sont venus en train ou qui sont venus en voiture, renvoyez le plus rapidement possible vos billets de train. Et aussi, pour ceux qui sont en voiture, les tickets d'autoroute, s'il y en a eu.
Bon, merci à vous.